Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Victoire obligatoire, quelle que soit la manière, selon le sélectionneur.
On peut disserter, il n'y a qu'une chose.
Son équipe n'a pas le droit à l'erreur.
C'est le résultat.
Encore faudrait-il pour cela qu'il commence à jouer au football, ce qui n'a pas vraiment été le cas.
Vous suivez Au bout du foot avec Malik Eudy et toute sa team. Chaque lundi, 20h30, 22h, sur monparisfm.com.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes sur Mon Paris FM, vous suivez l'émission Au bout du foot avec Jason Lindor du côté de la réalisation et de la technique. Je suis Malik Eudy. Ensemble, pendant 90 minutes, nous allons parler essentiellement de foot, uniquement de foot, 100% foot sur Mon Paris FM. Et comme tous les lundis, vous avez désormais l'habitude, hein, rejoignez-nous et puis diffusez l'information. Nous sommes disponibles sur Deezer, sur Spotify, sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement et également en direct chaque soir sur monparisfm.com, chaque lundi soir plus précisément. Ensemble avec tous les consultants, je vais saluer Eladj. Salut Eladj.
Salut Malik.
Ça va, t'as passé un beau week-end?
Ouais, ça va, j'ai passé un bon week-end et toi, ça va?
Bon, ça va super bien. Salut Alex.
Salut Malik.
Bien, la forme?
La forme.
Bien.
Ouais, tranquille.
T'as la voix qui dégage là, je sens que ça va chauffer là. Aujourd'hui, on est dans un 4-4-2 les gars, hein. On va assurer l'essentiel là. Salut Ibrahima.
Salut.
La forme aussi?
Oui, ça va.
Et puis on a un nouveau venu avec nous, hein. C'est l'ami Léo. Salut Léo.
Salut Malik.
Alors, un solide foot, moi ça va super bien et toi-même?
Ouais, ça va, merci beaucoup.
Un solide foot, concrètement, tu dis quoi là-dedans? Ton média?
Ouais, c'est ça, c'est un média que j'ai créé il y a 2 ans, mm-hmm. Après un stage, ouais. À l'école. Et depuis, ça m'a permis de trouver d'autres tafs. Mm-hmm. Aujourd'hui, je bosse pour des médias en France et à l'étranger.
T'es en école de journalisme?
Non, j'ai fait une école de com, mm-hmm. Et une fac aussi,
oui.
Avant de pouvoir entamer ma reconversion. Enfin, mes premiers pas professionnels.
Et puis, t'es passionné de foot aussi?
Tout à fait. Tout à fait. Depuis toujours.
On ne va pas demander quel club tu supportes, mais au fur et à mesure qu'on va dérouler des émissions, tout ça, on va découvrir. Parce qu'ici, là, il y a des supporters qui sont consultants, supporters, consultants, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, parfois, ils ne sont pas très objectifs. Ah, je ne vais pas te donner de nom, mais ils se reconnaîtront, n'est-ce pas? Alex, est-ce que tu as passé un beau week-end aussi? Il n'y a pas eu trop de matchs, là, les amis. Il hein. n'y a pas de championnat, il y a eu beaucoup de matchs amicaux.
Il n'y a pas eu trop de matchs, mais dans mes 30 secondes que tu as demandé, je vais revenir sur un match en particulier qui m'a fait un peu de peine quand même.
Ah ouais, on va en parler. Et toi, Ibrahima, pareil, il n'y a pas beaucoup de matchs en ce moment?
Non, bah, c'est la trêve internationale. Hein. C'est rare. Ce n'est pas les moments les plus plaisants quand on est fan de foot, même s'il peut y avoir.
Mais ça nous permet de respirer un peu.
Oui,
non,
ça fait un petit break. Mais il y a souvent de belles affiches aussi. Hein, mais... Là, les matchs n'étaient pas forcément beaux à voir.
Et toi, Léo?
Moi, je suis d'accord avec toi. Ça permet aussi de respirer un petit peu.
Ouais, parce qu'on a beaucoup de matchs. Hein.
Ah, il y en a trop.
Et pourtant, il y en a qui réussissent à regarder tous ces matchs en 3 écrans. Eladj, comment t'as fait ce week-end là?
Moi, je n'ai pas respiré. Bah, tu sais très bien, moi, je n'ai pas respiré.
Hey,
moi,
Léo, je t'explique l'histoire. C'est que Eladj, quand tu regardes les matchs, il a 3, voire parfois 4 écrans. Donc je ne sais même pas s'il regarde les matchs à la fin. Tu vois, parce qu'il est partout en même temps. C'est un multiplex à lui tout seul. Quoi.
Non, je le regarde les matchs. Moi, franchement, contrairement à vous, moi, j'ai pas respiré. Hein. Franchement,
ah ouais,
ça a pué. Hein. Là, franchement, je vois, j'ai passé une sale semaine. Hein.
Parce que je me suis dit, dans le 30 secondes chrono, je me suis dit, oh, ils auront du mal aujourd'hui, les mecs. 30 secondes chrono, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir?
Ah ouais, non.
Il n'y a pas eu beaucoup de matchs.
Il y a des événements après liés au football. Il n'y a pas que le football. Il y a des événements liés au football qui font qu'on pourra quand même débattre sur pas mal de sujets. Mm-hmm. Mais en termes de football pur, moi, franchement, je me suis ennuyé. Et non, moi, j'ai envie que ça reprenne aussi vite. Moi, j'aime bien quand tous les jours, il y a des matchs, c'est tout.
Voilà. Et je plais la femme d'Eladj. C'est le week-end, là. Il est à fond dans le foot. Jason, il fait un peu chaud dans le studio, les amis. On est d'accord. Hein, ouais. Il fait chaud dans le studio. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose pour nous. Parce que sinon, on pourra pas terminer l'émission, on se croirait à la canne là, c'est un truc de malade. Alors les amis, dans quelques instants, il va nous rejoindre notre ami Stéphane Desenclos du quotidien du sport.fr pour nous donner aussi ses lumières. Juste avant, on va dérouler le sommaire d'Au bout du foot. C'est parti.
Au sommaire d'Au bout du foot de ce 25 mars 2024, 30 secondes chrono. Chaque consultant donne son fait marquant foot en 30 secondes. Également dans ce numéro d'Au bout du foot, nous reviendrons sur la défaite de l'équipe de France face à l'Allemagne ce week-end. Cette défaite est-elle rassurante ou inquiétante? Nos chroniqueurs s'expriment. Quel choix pour quel résultat? Avec l'âge avancé de Giroud, les difficultés de Thuram en équipe de France et la saison décevante de Colomoini, quel numéro 9 l'équipe de France doit-elle aligner pour débuter le prochain Euro? Le dossier Au bout du foot, crise de l'arbitrage en France, orientation technique, sonorisation. Anthony Gauthier dévoile les nouvelles directives. Est-ce suffisant pour améliorer l'arbitrage en France? Au bout du foot, répond à la question. Au bout du foot, Karim Benzema aux Jeux Olympiques. Interrogé par la chaîne L'Équipe, l'international français a entrouvert la porte à une participation éventuelle aux Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. Bonne ou mauvaise idée de voir Karim Benzema aux JO? Au bout du foot, tirage au sort des Jeux Olympiques Paris 2024. À 4 mois des JO qui auront lieu à Paris, l'équipe de France connaît désormais 2 de ses adversaires sur 3. Les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Êtes-vous hypé par les JO? La question est posée. La question au bout du foot. Cette semaine, les salaires des footballeurs de Ligue 1 ont été révélés dans le journal L'Équipe. Est-ce dérangeant ou gênant de connaître les émoluments des joueurs? Au bout du foot, l'essentiel du foot en 90 minutes. Bienvenue.
Comme chaque lundi, 20h42 minutes, en sommaire très riche, très chargé. On va tout de suite au pas de course, les amis, dérouler avec le 30 secondes chrono. C'est parti. 30 secondes chrono, on va commencer avec toi, mon cher Alex.
Alors ça se passait en deux parties. La première partie, c'est le match entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, parce que c'est deux pays qui sont chers à mon cœur. Et j'ai trouvé que la Côte d'Ivoire était vraiment très décevante, parce que les matchs d'après-ci, c'est toujours important, et là, c'était particulièrement décevant. Et le deuxième point, c'était le Sénégal qui a remporté 3-0 son match face au Gabon. Et le but magnifique de Mikaïl Faye, joueur du FC Barcelone, je le rappelle, c'est un 2004, dont on va entendre beaucoup parler de lui dans les prochaines années.
Léo, je pense que tu as déjà une idée, hein. Tu as déjà une petite idée déjà de qui supporte qui. Hein. Je dis ça,
on
je
verra
dis rien.
Ça plus tard.
Réaction sur le match amical de la Côte d'Ivoire face au Bénin et du Sénégal face au Gabon. Non, avec la pépite sénégalaise aussi, oui. Hein, justement.
Non, pour le match de la Côte d'Ivoire, c'est à leur image, hein, un peu à leur image de la CAN. Hein. Il n'y a rien de surprenant, je pense. Il leur faut encore un peu de temps pour faire une bonne équipe structurée, en sachant qu'il y a des joueurs majeurs qui vont s'en aller, comme Gradel, qui joue notamment l'un de ses derniers matchs et que moi je félicite pour sa carrière, hein, que ça soit international ou même bon de son côté club, il n'y a pas beaucoup de choses, mais bon, côté en tout cas international, il a fait pas mal de choses avec la Côte d'Ivoire. Du coup, ça a félicité et à souligner.
Réaction?
Non, je tenais juste à saluer aussi la performance de Guéla Doué, je crois, qui honorait sa première sélection avec les éléphants, et ça fait plaisir de voir de nouveaux joueurs arriver en sélection.
Et en plus, lui, je crois qu'il a son frangin. Ouais. Qui joue pour l'équipe de France. Et
d'ailleurs,
lui,
n'a eu aucune pitié.
Et lui, il joue pour la Côte d'Ivoire.
À mettre un doublé.
Et il a battu justement la Côte d'Ivoire avec les U23.
Désiré Doué, c'est ça.
Ouais,
il a mis un doublé face à l'équipe de France Espoir.
C'est fou. Hein. Je me demande si à la longue, les équipes nationales vont demeurer encore, hein, à cette allure-là. Parce que je regardais une équipe, je ne sais plus c'est laquelle. Il y avait que des Brésiliens. Une équipe au niveau de... Je crois que c'était l'Arabie Saoudite, je ne sais plus. De mémoire comme ça. Le Qatar plutôt, il y avait beaucoup de naturalisés brésiliens là-dedans. Je ne sais plus si ça a encore du sens tout ça, mais en tout cas, l'avenir nous le dira. On poursuit toujours le 30 secondes chrono avec Eladj. C'est parti.
Une fois n'est pas coutume, hein, moi je voulais revenir sur les propos de Philippe Diallo. Hein, franchement, je trouve que c'est une honte sur ses propos.
Le président de la Fédération française de foot.
Ouais, voilà, le président de la Fédération qui remplace Noël Gray, qui n'est pas mieux d'ailleurs que Noël Gray. On voit, en tout cas, là, on voit un peu sur
là,
plusieurs
tu dis
aspects.
Gray, le Gret.
Ouais, le Gret.
Noël Le Gret.
Ouais. Franchement, il ne mérite même pas que je dise bien son nom. Bref, du coup, voilà, hein, on revient sur le débat. Là, on a pu voir des personnalités s'exprimer, notamment Habib Bey, que je félicite, et le jeune aussi lyonnais de 19 ans qui a pris le courage de quitter la sélection parce que le respect n'était plus servi à table.
Ouais, je t'ai laissé 5 secondes parce que je t'avais interrompu encore. Mmh. Justement, tu fais cas du ramadan, hein, en fait, c'est ça ?
Et du carême. Habib Bey l'a si bien précisé, il a des joueurs, il a un groupe partagé entre ceux qui font le carême depuis 45 jours et d'autres qui font le ramadan, qui viennent de commencer le ramadan, pour les deux.
Des réactions là-dessus, cette polémique qui n'arrête pas. Hein. Chaque année, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose quand on a des joueurs qui font, qui observent le jeune comme ça. Là. Moi, ça devient un peu dérangeant, non ?
Bah, c'est sûr, surtout qu'on parle d'un mois dans l'année et j'ai l'impression que c'est qu'en France qu'on a ce débat-là chaque année, en fait. J'ai pas l'impression que dans les autres pays, ça pose autant de problèmes.
Léo ?
Je pense qu'on devrait prendre exemple sur ce qui se passe en Première Ligue, en Angleterre en général d'ailleurs, et en Bundesliga, où ça pose visiblement aucun problème aux arbitres d'arrêter
mais
le match.
Mais on te parle de la laïcité, justement.
C'est ça. Mais je pense que c'est du tout ou rien. Si on accepte, comme le rappelait Eladj, que des joueurs arrêtent le match pour briser leur jeûne, on le fait aussi, on le fait à la fois pardon, pour le carême comme pour le ramadan. C'est quelque chose. Il faut qu'il y ait une parité et une égalité envers tous les joueurs.
Et en sachant qu'aussi, il y a des joueurs qu'on va moins attirer dans notre championnat. En tout cas, on ne peut pas s'étonner. Demain, moi, je pense à des joueurs comme Danjuma qui est parti, qui a fait un reportage magnifique quand il est arrivé en Angleterre et juste avant, il était en Espagne. Et il était vraiment étonné de comment on respectait la foi de chacun. Et la laïcité, c'est vraiment ça aussi. C'est respecter les valeurs et les croyances de chacun. C'est partager et voilà, respecter. Et Danjuma, je pense à lui notamment, qui est super content d'être en Angleterre et qui va continuer à poursuivre sa carrière en Angleterre. En tout cas, il a dit pendant un long moment parce que vraiment, il a vu la différence qu'il y avait en Espagne et qu'il avait en Angleterre où il était beaucoup plus ouvert et beaucoup plus, plus libre. Quoi.
Merci les amis. 30 secondes chrono toujours avec cette fois-ci Ibrahima. C'est parti.
Alors moi pour ce 30 secondes chrono, je voulais parler de la blessure de Bradley Barcola avec l'équipe de France Espoir lors du match contre la Côte d'Ivoire. Bon, apparemment il sera absent plusieurs semaines. Il loupera notamment le Classico qui aura lieu ce week-end il me semble. Bon, on espère qu'il sera prêt pour pouvoir jouer face au FC Barcelone parce que ça reste quand même un atout offensif assez conséquent du côté du Paris Saint-Germain. Et voilà, qu'on espère tout simplement que c'est pas trop grave et qu'il pourra être là pour le match de qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions.
Et là, t'as peur ? L'absence de Barcola ?
Non, peur, j'ai pas peur de l'absence de Barcola, mais je vois des petits sourires en coin, je pense que c'est
non, c'est une question.
Non, mais attends. Je te dis juste, je vois des petits sourires en coin, et je t'ai pas visé. Toi, Malik, pourquoi t'as rigolé toi aussi, t'avais le sourire en coin, j'avais pas vu carrément. Non, moi, je parlais d'Alexandre, parce que je le vois, enfin, je vois, il est en train de... Voilà, tu vois, voilà, c'est pour ça. Du coup, non, je te dis, j'ai absolument pas peur. Barcola, qu'il soit là ou qu'il soit pas là,
non, mais
pour moi,
en plus, il y a Barcola, mais il y a Hakimi aussi. Non, c'est Hakimi, non, qui est suspendu.
C'est Hakimi.
Hakimi suspendu, Barcola potentiellement absent. Ça commence à faire beaucoup, non ?
Franchement, on a deux pour l'instant, c'est des joueurs remplaçables. Moi, je pense que il y a rien de fait entre guillemets.
Donc pour toi,
même Barcola, c'est pas sûr qu'il n'est pas là. Il y a que Hakimi pour l'instant, c'est acté. Barcola, c'est pas acté. Et même s'il c'est pas acté en ce moment, quand Gingli est en très bonne forme, moi, je pense qu'on peut lui donner sa chance. Et sur un match comme ça, c'est à lui de prouver et de prendre ses responsabilités.
Lucas.
Léo.
Non mais c'est Abou, il m'a trop embrouillé, il m'a envoyé plein de noms.
Il m'appelle Abou maintenant, alors que c'est là.
Non mais non, c'est Abou, c'est Abou qui m'a embrouillé, il m'a envoyé plein de noms et aujourd'hui, dont Léo, donc je suis un peu perturbé là. Non, Abou, c'est ta faute. Hein.
Je suis d'accord avec ça, je pense que le PSG dispose d'un effectif de qualité, peut-être pas aussi profond qu'il y a quelques années, je pense notamment sous Laurent Blanc, mais Bradley Barcola, surtout au vu de ses prestations récentes, je pense que c'est quelqu'un dont qu'on peut remplacer, en tout cas, sur une échéance au match aller contre le Barça, il suffirait.
Là, on n'est plus dans les poules, les amis. Hein.
Mais regarde, si tu replaces Mbappé sur son côté gauche et que, bon, du coup, tu donnes à Ramos l'axe de l'attaque, lui qui a fait des très bonnes entrées récemment et même des très bonnes performances tout court, je pense que ce n'est pas déconnant. On peut remplacer Barcola aujourd'hui en équipe au Paris Saint-Germain.
Alex et Ibrahima.
Non, je n'étais pas forcément en train de dire qu'il était irremplaçable.
Non, c'est moi qui ai posé la question, c'est pas toi.
Ah, ok.
Mais on sent quand même un peu d'inquiétude quand même, puisque tu l'as révélé. Tu l'as relevé quand même.
Oui, je l'ai relevé.
Il y a un peu d'inquiétude quand même chez toi.
Je pars du principe que pour aborder ce genre de match, il faut avoir tous ces joueurs au complet et avec tous les joueurs en meilleure forme possible. Donc forcément, aborder ce match-là avec un atout offensif au moins qui est Bradley Barcola, forcément, ce sera handicapant.
Non, mais comme j'ai dit la semaine dernière, Paris a beaucoup plus de certitudes que le Barça sur cette double confrontation. Et c'est pas parce que Barcola et Hakimi sont suspendus que ça y est, faut tirer la sonnette d'alarme
suspendu
côté
et
parisien.
Blessé.
Suspendu et blessé, pardon. Qu'il faut tirer la sonnette d'alarme côté parisien. Comme l'a dit Eladj, il y a quand même des joueurs qui peuvent les remplacer. Donc voilà. Rien d'alarmant.
Merci les amis. On va boucler le 30 secondes chrono avec notre ami Léo. C'est parti.
Alors oui, moi de mon côté, j'aimerais revenir sur un événement qui s'est passé aujourd'hui. En ce lundi, il y avait Vinicius Junior qui était présent en conférence de presse avant la rencontre de demain entre l'Espagne et le Brésil. Et il se trouve qu'il a été interrogé sur le racisme et sur son rôle, en tout cas de son rôle désigné de porte-drapeau contre le racisme. Il a fondu en larmes et moi, je trouve qu'il faudrait que les instances arrêtent de considérer comme normal le fait de dresser un joueur comme porte-drapeau d'un combat de cette importance et qu'on lui rende justement son statut de footballeur plus que de porte-drapeau.
La cause est noble, hein, et puis c'est ton premier jour, on t'a laissé déborder.
Merci.
Les amis, on est tous unanimes là-dessus. Hein.
Oui, là, il n'y a pas
de débat, hein, stop au racisme. En plus, je vois bien que la FIFA a souvent des banderoles comme ça, non au racisme à chaque fois. Je ne sais pas si c'est juste pour faire joli, parce que derrière ça, je ne sais pas s'il y a de véritables actions qui sont menées. Hein,
ça marche aussi avec l'écologie, quand tu vois la pub avec Buffon là, qui balance un ballon sur l'interrupteur. Il me semble que c'est le pacte vert et qu'on entend que les équipes sont incapables de prendre le train pour faire des déplacements de 100, 200, 300 km. C'est à peu près pareil, qu'ils doivent affréter un avion exprès pour ça, c'est un peu dérangeant.
Ah, ça, c'est encore une autre question. Hein. Tu vas parler de ça peut-être dans mon Paris Sport avec Philippe Carnu. Hein. Je pense que lui. On va poursuivre, les amis, cette fois-ci avec notre actu du foot. On va débriefer notre France-Allemagne de ce week-end. Hein. Ça n'a pas du tout été fameux et c'est le moins qu'on puisse dire. Débrief du match entre la France et l'Allemagne, hein, vos tops et flops et vos impressions et votre regard sur la rencontre. Cette défaite est-elle inquiétante ou rassurante à quelques mois de l'Euro? Et est-ce que, les amis, on n'est pas tout simplement en train de surcoter notre équipe de France, finalement?
Non, pas surcoté. Parce qu'en fait, cette équipe, elle est très, très compliquée à analyser. En plus, là, il n'y avait pas Griezmann, donc on le sait depuis longtemps que Griezmann, c'est un élément majeur de l'équipe. Enfin, même l'élément majeur, j'ai pas peur de le dire. Et elle est très compliquée à analyser parce que les matchs de poule ou les matchs de qualification, c'est toujours très poussif. Il y a très peu de jeux qui est fait. Et c'est souvent dans les phases finales que l'équipe elle a un supplément d'âme, elle a un vrai collectif qui se crée.
Mais ce supplément-là, l'Allemagne l'a eu. Hein.
Mais oui, parce que c'est une préparation différente, parce que c'est un coach différent, des joueurs différents. Et là, l'équipe de France l'a pas eu et l'a jamais eu depuis Deschamps dans les matchs aussi avec une telle importance. Avec aussi peu d'importance.
Et Alex évoquait l'absence de Griezmann, et je pense qu'il y avait une autre absence aussi qui était préjudiciable à l'équipe de France, en tout cas en début de match, c'était celle de Giroud. On a bien vu que Thuram, il n'était pas capable, en tout cas pour le moment, on rappelle qu'il a, on va dire, entre guillemets, que 27 ans, de peser autant que Giroud sur une défense, d'apporter ce qu'il apporte dans une surface, et je pense que ça fait du tort aussi à l'équipe de France.
Brahima, les impressions générales?
Non, moi, par rapport à ce match, bah, bizarrement, si j'ai un reproche à faire, c'est peut-être à Didier Deschamps. Je trouve que bah, il n'a pas su pallier l'absence d'Antoine Griezmann correctement. Je n'ai pas forcément aimé la composition au milieu de terrain avec Tchouaméni, Rabiot et Zaïre Emery. Je pense qu'il aurait dû essayer de mettre un joueur un peu plus haut sur le terrain pour pouvoir combler l'absence d'Antoine Griezmann. Après, pour revenir un peu plus sur le match, bah, ce qui est un peu inquiétant, c'est que les Allemands, je ne les ai pas trouvés. Je trouve qu'ils ont bien joué, ils ont fait un bon match. Mais je veux dire qu'ils n'ont pas non plus tout donné. Ça restait un match amical. Et de voir la France pas capable de revenir au score et de s'incliner de cette façon, c'est là où j'ai mis quelques réserves quand même. Mais sinon, généralement, je ne pense pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter. Je pense qu'à l'Euro, comme l'a dit Alex, il y aura un supplément d'âme et je pense que ça devrait le faire.
Eladj ?
Ouais, moi je pense que j'ai un petit coup de gueule à pousser envers Didier Deschamps. Hein. Pour moi, la compo elle était pas bonne, hein, de l'attaque au milieu de terrain et en passant par le milieu de terrain jusqu'à la défense. Hein. Franchement, c'est bien mignon de faire jouer. Oui, j'aime beaucoup Zaïre Emery, hein, mais tu peux pas mettre Kamavinga sur le banc et mettre Zaïre Emery titulaire.
Surtout
pour
que
moi,
Griezmann t'es pas là. Et je
sur,
pense que
c'est
dans
surtout
dans
c'est exactement
équipe,
ça. Oui.
Si quelqu'un peut oui. Au niveau qualitatif suppléer à Griezmann, c'est certainement Kamavinga.
Oui,
pense.
Bien sûr. Même avec la face façon dont comment il est dynamique au milieu de terrain. Moi, tu mets Zaïre Emery, Tchouaméni et Rabiot, c'est un peu entre guillemets les mêmes profils. En tout cas, il y en a aucun qui va plus vers l'avant que l'autre. Rabiot un tout petit peu, mais sans plus, ça apporte pas une vraie qualité. Il va pas te faire des bonnes passes, il va pas être dans le bon tempo. On l'a vu hein, pendant le match, c'était pas ouf du tout. Et en attaque, franchement, Marcus Thuram, j'ai pas envie de le voir, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. J'ai pas envie de le voir. Il n'a rien à faire là. Clairement, il n'a rien à faire là. C'est une catastrophe.
On va y revenir justement dans la question qu'on va poser, hein, dans quel choix, pour quel résultat. Giroud qui a 37 ans, justement, on va y revenir. On va forcément parler de Marcus Thuram. Léo, ton sentiment, justement, tes impressions générales avec cette défaite de l'équipe de France face à la Mannschaft.
Moi, je suis d'accord sur la question du milieu de terrain. Je pense que déjà, un joueur comme Griezmann n'est pas remplaçable à l'heure actuelle en équipe de France. On n'a pas le joueur qui le suppléerait parfaitement. Et quand on regarde le groupe convoqué par Didier Deschamps, on n'a pas un joueur créatif. Et je pense que dans une équipe, ce n'est pas possible. Quand on voit le 11 aligné par Nagelsmann contre la France, justement, il suffit d'avoir un Florian Wirtz, un Jamal Musiala ou l'équivalent en équipe de France pour pouvoir apporter au moins plus de danger. Un Toni Kroos qui est capable de casser les lignes par la passe, on n'a pas ça non plus. Zaïre Emery, je te rejoins Eladj, je suis d'accord, c'est un très bon jeune qui est en train de faire sa place au Paris Saint-Germain, mais faut pas oublier qu'il a 18 ans.
Même pas, il a 16 ans, 16-17 ans.
Non, il vient de fêter ses 18 ans. Il a 18 ans. Là, il n'exagère pas.
Je croyais qu'il avait moins. Non,
mais de toute façon, comme le disait Mbappé à l'époque, on ne doit pas parler d'âge. Si tu es en équipe de France, c'est que tu as les capacités. Oui, en tout cas, on juge que tu as les capacités.
Oui, mais il y a l'expérience quand même. Tu peux être doué de talent, mais l'âge, au moins, en général, ça s'associe à l'expérience.
Et le milieu allemand a mangé littéralement le milieu français.
Moi, je pense...
Pardon, vas-y.
Non, non, vas-y, excuse-moi,
terminé.
Moi, je pense
arrêtez,
que aussi...
on est sport ici, les amis.
Moi, je pense que du côté aussi allemand, Nagelsmann a fait une très bonne chose, parce que même si voilà, on n'a pas vu une équipe d'Allemagne flamboyante, je pense que juste avec le peu, ça a suffi. Un peu de technicité, il a mis un plan tactique en place, Nagelsmann, hein, dès les premières minutes, on l'a vu, au bout de 7 secondes, on en a fait les frais, et franchement... La meilleure chose qu'il ait pu faire là, Nagelsmann, depuis qu'il est arrivé, c'est rappeler Toni Kroos parce que c'est la carte maîtresse. Et il est arrivé en moins de 7 secondes, il a délivré une passe décisive. Et dans ce match-là aussi, il est sur un record de plus de 124 passes réussies. C'est le record du match où voilà, il a fait énormément de bien au milieu de terrain. Et on l'a vu, et c'est ce qui manquait à l'Allemagne depuis
il a même,
cas,
il a même été applaudi, hein, il a même été applaudi par le public hein, du stade à Lyon, pour te dire.
C'est vraiment la beauté du football. Moi, je pense vraiment que ça, c'était leur pièce maîtresse. Après, maintenant, oui, Griezmann est irremplaçable. Moi, ça m'a fait mal de voir quand même une équipe de France à ce rythme-là, hein, parce que franchement, ils n'avaient pas d'envie. Ils n'avaient pas d'envie, à part Dembélé sur le côté droit et première mi-temps, parce qu'il a pu
Même Dembélé, moi, je sais pas, vous restez beaucoup sur Dembélé, que ce soit au Paris Saint-Germain. Et là encore, on l'a vu.
Non, moi, je te parle du match-là.
Je fais large pour dire qu'en fait, il a toujours les mêmes, comment dire ça, les mêmes insuffisances. Il fait de bons dépassements au niveau des dribbles, c'est très joli à voir jouer, mais derrière, il n'y a rien. Il n'y a pas de tir cadré, et même quand c'est cadré, ça va directement sur le goal. Il ne lève pas la tête pour faire la bonne passe, il met toujours un ballon comme ça dans le vide. C'est un peu la chance, si elle arrive, ok, mais il n'y a rien, la plus-value de Dembélé. Moi, je suis vraiment en attente. Hein. Je me demande, c'était quand le dernier match référence de Ousmane Dembélé en sélection? Je me pose la question, véritablement. J'en vois pas. Autrement, en balle au pied, je me demande si ce n'est pas un des meilleurs joueurs au monde quand tu le vois en train de conduire le ballon. Mais derrière ça, il n'y a pas une plus-value réelle, les amis.
En tout cas, Malik, là, ce dernier match-là, Ousmane Dembélé a été l'un des meilleurs, si ça n'a été le meilleur joueur.
Il n'y a pas de passe décisive. Il n'y a rien du tout.
Mais parce que Thuram, il est nul. Tout simplement parce que Thuram, il est nul. C'est tout.
Bah, après, si on peut se permettre de comparer Dembélé, par exemple, aux adversaires de ce soir-là. Par exemple, un Jamal Musiala aujourd'hui, il est bien plus efficace qu'Ousmane Dembélé, par exemple.
Clairement.
Mais il joue pas le même poste. Ouais, il joue 10. Non, mais Musiala, il joue 10. Non, il n'est pas sur le côté. Musiala, il joue 10.
Il touche beaucoup plus de ballons.
Il touche beaucoup plus de ballons. C'est pas pareil.
Ouais, je sais pas.
Non, mais Ousmane Dembélé, il touche beaucoup de ballons. C'est pas ça le sujet. C'est juste qu'il fait des différences très souvent, mais pour rien du tout. Il n'y a pas de passe D. Même au PSG, on va laisser Marcus Thuram pour l'instant. Non, mais même au PSG.
C'est vrai que ça manque, ça manque de justesse.
Non, ça manque de précision.
Je ne dis pas que ça manque pas de justesse.
C'est pas terrible. Non, mais moi, je veux une bonne fois pour toutes.
Pour moi, il lui faut un attaquant référent.
On arrête d'être dithyrambique vis-à-vis d'Ousmane Dembélé. Non, mais c'est vrai.
Pour moi, il lui faut un attaquant référent.
Voilà.
Pour moi, il lui faut un attaquant référent.
Au PSG,
il faut un grand attaquant.
Au PSG, il a quand même.
Il n'a pas d'attaquant référent.
Ah, donc Kylian Mbappé,
c'est pas un attaquant, c'est un ailier. Et tu vois bien, à chaque fois, Dembélé, quand il va le chercher. Non, mais quand il va le chercher, Dembélé, il va le chercher comment ?
Tu apportes de l'eau à mon moulin. Tu apportes de l'eau à mon moulin parce que justement, Kylian Mbappé a joué longtemps dans l'axe cette année avec le Paris Saint-Germain. Et si je regarde, je sais même pas Ousmane Dembélé a pu faire combien de passes décisives.
Non, mais
à Ramos ou à Kylian Mbappé.
Je suis d'accord avec ce que dit Elhadj parce que la meilleure saison Dembélé sur les 6-7 dernières années, c'est. Enfin, à part Dortmund, depuis qu'il était au Barça et Paris Saint-Germain, c'était l'année dernière où il a fait 13 passes décisives et il y avait Lewandowski qui finissait ses centres et qui finissait ses actions. Donc, il a besoin d'un attaquant référent, ça c'est sûr. Et comme l'a dit, comme on le dit tous, Thuram, il n'a rien à faire ici. Je sais pas vous, mais je crois qu'il joue avec des bottes, Thuram. Il n'a rien à faire ici. Et pour moi, Giroud, il est...
Il paraît qu'il a un trousseau de clés dans les poches.
Non, apparemment, ouais.
Il n'y a que Malik qui défend.
Là, il a fait un match catastrophique.
Il fait que des matchs catastrophiques en équipe de France. En équipe de France, il fait que des matchs catastrophiques.
On va y revenir parce qu'on va aborder le sujet de Giroud dans le deuxième sujet, justement. Alors, moi, j'ai envie de vous demander, finalement, est-ce que cette défaite, c'est grave ?
Moi, pour moi, oui, c'est grave. À domicile, quand même.
Non.
À domicile, avec la manière. Non, à domicile, il n'y avait pas d'envie de jouer, en fait. C'est ça, le pire. Il n'y avait pas d'envie de jouer. La seule action, entre guillemets, qui était dangereuse, c'était la barre et Kolo Muani qui tire à côté. C'était la seule action dangereuse, vraiment, du match. À un moment, il y a eu un centre et Marcus Thuram.
Il y a eu aussi l'action des Giroud dans les arrêts de jeu.
Oui, mais à part ça, il y a on peut pas dire
que c'est grave parce que à chaque match de l'équipe de France, hors Euro et hors Coupe du Monde, on a toujours les mêmes constats. Toujours, il y a pas de jeu. Deschamps, on sait pas ce qu'il fait. Il y a des joueurs, ils n'ont pas leur place.
Non, mais Alex, je suis pas d'accord. Même quand on gagne, il y a pas beaucoup de jeu non plus.
On est content
parce que la victoire finale est souvent là.
Cette équipe, elle est ultra dure à analyser. Et qu'en fait, là, on tire des conclusions, mais c'est inutile parce que si ça se trouve, contre l'Autriche demain, ils vont sortir un 4-0. Le Chili, pardon.
Non, mais ils sont bons. Non,
l'Autriche, c'est pendant l'Euro.
Ouais, pardon.
T'es pressé. Hein.
Bah, je suis pressé. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, elle est impossible à analyser, cette équipe. Donc au final, je suis ni inquiet ni rassuré. C'est à l'image de l'équipe de France.
Non, je suis pas d'accord avec toi, Alex, parce que quand tu dis elle impossible à analyser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je suis un pro Dédé, je suis un pro Deschamps, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand tu me dis cette équipe, elle est difficile à analyser, ça veut dire quoi ? On fait plus rien ? On est là ? D'ailleurs, justement, je parlais de Dédé, on va écouter justement sa déclaration juste après le match.
On a été capable de se hisser au niveau que l'adversaire nous a proposé aussi, et déjà dès le début de match, en termes d'agressivité, de détermination. L'équipe d'Allemagne a fait un très bon match. Il y avait de la qualité, je vous l'ai dit avant. Oui, on a été défaillants. Après, il y a le mérite de l'adversaire. Sur le premier but, on est plutôt très passif. Et après, pour se remettre dedans, on a été par intermittence. Mais sur ce plan-là, on n'a pas été, je le répète, à la hauteur ce soir. C'est pas parti des matchs du calibre qu'on a l'habitude de jouer, mais sur le plan athlétique, oui, on était en déficit. Ça peut être individuel, mais surtout collectif. Donc après, quand déjà on commence pas par le bon bout, et puis au-delà du fait qu'on l'a pas fait, peut-être pour différentes raisons qu'on n'en avait pas les moyens à ce moment-là. Il faut l'accepter et au moins on sait ce qu'on a à faire nous aussi pour être performant, mais pas ce que l'équipe d'Allemagne aussi nous a proposé.
Voilà les amis, hein, défaite rassurante ou plutôt inquiétante en définitive, Ibrahima.
Je suis un peu partagé parce que dans le sens où je me dis que les Allemands n'ont pas été flamboyants, donc perdre un match.
Mais c'est grave alors.
Où les Allemands ne sont pas forcément au top de leur niveau, je me dis que bon, faudrait peut-être s'inquiéter. Et d'un autre côté, je me dis bon, c'est un match amical et je pense qu'ils se rattraperont face au Chili. Donc c'est là où je suis un peu partagé. Après, je pense qu'individuellement, chaque joueur, je pense qu'ils n'étaient pas au top de leur forme malgré tout. Notamment Mbappé, on l'a vu, il n'était pas bon. Marcus Thuram, je pense que ça a été dit, je n'ai pas besoin d'en parler. Même défensivement ou pas, Mécano, je ne l'ai pas trouvé au top de sa forme. Donc j'espère qu'ils se rattraperont contre le Chili. Mais franchement, je suis un peu partagé sur le fait qu'ils fassent inquiéter eux ou non.
Mais en 2020, excuse-moi, en 2020, ils vont pas jouer. En 2024, pardon, là, pendant l'Euro, ils vont pas jouer contre le Chili. Ils sont plus susceptibles de tomber contre l'Allemagne. Là, je rappelle qu'ils tombent. Et là, ça fait deux matchs de suite qu'ils jouent contre l'Allemagne et qu'ils perdent. Même pour la confiance en soi. Non, mais sérieux. Même pour la confiance en soi. Là, tu joues à domicile contre le pays organisateur. Tu essayes d'aligner un 11 potable. Parce que tu essayes d'aligner quand même un 11 potable. La prestation, elle est vraiment très médiocre. Là, ça fait deux matchs où tu te prends deux revers face à l'Allemagne. Et l'Allemagne, je tiens à rappeler, sur les quatre derniers matchs, sont sur deux défaites ou trois défaites plus un match nul contre des équipes de bas étage. Franchement, non, mais faut
donc, tu es plutôt inquiet.
Bien sûr que je suis inquiet. Moi, je suis inquiet. Là, demain, on retombe contre l'Allemagne en euro. Pour moi, ça ne va rien changer. Même si on récupère Griezmann ou quoi que ce soit, il y a la confiance en soi. Il y a ces petits détails qui ont fait que même réussir à mettre un but, ils n'ont pas réussi. Ça fait 14 matchs. À chaque fois, ils mettent au moins un but. Là, c'est la première fois en 14 matchs, ils ne réussissent pas à mettre un but. Et deux défaites d'affilée face à l'Allemagne. Non, quand même.
Et toi, Léo, tu es rassuré ou plutôt
moi,
inquiet?
C'est pas une inquiétude sur est-ce que l'équipe de France mérite sa défaite 2-0. C'est plus une inquiétude globale. Ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que l'équipe de France, face aux gros, éprouve des grosses difficultés. On se souvient.
Les amis, c'est le haut niveau aussi. Hein.
Oui, mais une équipe comme la sélection tricolore doit avoir un standing. On se souvient évidemment de la finale de la Coupe du Monde 2022. On se souvient peut-être un petit peu moins du quart contre l'Angleterre, où on gagne 2-1, mais c'était loin d'être fameux. Et encore, l'Angleterre loupe un pénalty à la toute dernière seconde. Et je pense que s'ils avaient égalisé à ce moment-là, l'histoire du match changeait, parce que l'équipe de France me paraissait éreintée. Oui, il y a eu le 4-0 contre les Pays-Bas, avec deux buts très rapides au Stade de France. Il y a eu le déplacement aux Pays-Bas qui n'était pas facile. On a perdu 2-0 contre l'Islande, contre la Finlande, pardon, il y a quelques mois. Après, le seul motif d'espoir, j'ai envie de dire, c'est que si on se remémore juste avant la Coupe du Monde 2018, l'équipe de France joue 6 matchs entre juin et septembre et elle n'en gagne qu'un seul et en perd 3. Donc peut-être qu'avant les compétitions majeures, vaut mieux perdre avant les compétitions majeures que pendant.
C'est bien ce qu'a dit le sélectionneur Didier Deschamps. Alex, ton sentiment là-dessus, est-ce que finalement cette défaite-là t'inquiète ou te rassure plutôt?
Mais elle m'inquiète pas, ni elle me rassure comme Ibrahima en fait. Mais moi, je trouve qu'on est beaucoup trop alarmiste sur l'équipe de
France.
Non,
mais la question aussi, c'est de savoir est-ce que nous-mêmes, on surcote pas un peu trop notre équipe de France?
Mais ça a toujours été le cas, mais au final... Enfin, en fait, non, parce qu'au final, finale de Coupe du Monde, Coupe du Monde gagnée en 2018, finale d'Euro en 2016, bon, il y a eu l'Euro en 2021, enfin 2020-2021, qui a été un échec, mais à part ça, l'équipe de France a toujours répondu présent depuis, on va dire, 98, elle a raté quoi ? 3 tournois. Donc c'est pour ça, moi, je veux bien qu'on en parle pendant des heures, mais elle a raté 3 tournois, ça fait 25 ans. Donc au final, ça sert à rien de tirer des conclusions hâtives sur un match amical à Lyon contre l'Allemagne.
Non mais parce que tu parles de match amical, mais moi quand j'ai vu à la fin du match, c'est bizarre, mais quand le match s'est terminé, j'ai eu l'impression de revoir le match de la finale face à l'Argentine en fait.
Mais je pense que c'est parce que les joueurs n'avaient pas.
J'ai l'impression que c'est le même scénario.
Mais ils n'avaient pas le supplément. Là où j'ai peur, par contre, là où je vous rejoins, là où j'ai un peu peur, c'est qu'il n'y a pas de joueurs comme Pogba qui sont là pour haranguer les troupes. Là, j'ai un peu peur qu'il y ait... Parce que Mbappé, je pense pas que ce soit un leader comme Pogba dans la parole. Donc, c'est là où j'ai un petit peu peur.
C'est un leader individualiste, en fait.
C'est là où j'ai un petit peu peur. Mais je ne suis pas du tout inquiet sur l'équipe de France, vraiment pas.
Mais toi, Ibrahima ?
Non, bah, pour revenir, moi, je suis assez partagé. Après...
Est-ce qu'on est pas, on surcote pas cette équipe de France, là, en définitive ? C'était ça, la question.
Bah, surcoté, pas vraiment, parce qu'on parle quand même du finaliste de la dernière Coupe du Monde, comme l'a dit Alexandre,
du vainqueur de la
Coupe du Monde 2018.
Mais ça fait déjà longtemps, ça va vite en foot.
Oui, mais on peut pas dire qu'on surcote une équipe qui est finaliste de la dernière Coupe du Monde, qui a quand même y a de grands joueurs dans cette équipe-là.
Non, mais la forme du moment.
Je veux dire qu'ils jouent tous dans les meilleurs clubs européens, donc on peut pas dire qu'on surcote une équipe où il y a Mbappé, Griezmann et tout ce genre de joueurs. Donc non, je pense pas que l'équipe soit surcotée. Après, c'est sûr qu'en ce moment... Après, de toute façon, j'ai jamais trouvé cette équipe... elle a jamais proposé un beau jeu, hein, cette équipe de France-là, tout simplement. Après, c'est vrai qu'avant, il y avait... Enfin, avant. La plupart du temps, elle s'impose quand même malgré tout. Sur le dernier match contre l'Allemagne, elle ne s'est pas imposée. Mais il ne faut pas oublier que cette équipe-là n'a jamais proposé un très beau jeu. Donc moi, personnellement, au niveau du jeu, je ne m'attends pas à grand-chose de cette équipe. Mais par contre, à la fin du match, il faut partir avec la victoire.
D'accord, merci les amis. On va rester toujours avec cette équipe de France. Cette fois-ci, on va parler justement de notre attaque, hein, surtout au niveau du numéro 9. On sait aujourd'hui que notre ami Giroud a 37 ans, c'est bien ça, hein, si je ne m'abuse. Hein, et avec les difficultés aussi qu'observe Thuram Kolomwani, j'ai même pas envie d'en parler, ça ne va pas. Qui pour remplacer Giroud aujourd'hui? Il n'y a pas de réel choix qui se dégage, en tout cas si je m'en tiens aux sélections de Didier Deschamps. Qu'est-ce que vous en pensez? On y reviendra juste après la virgule de notre ami Jason. Alors, je l'ai dit, les amis, un Kolomwani décevant, Thuram, pas du tout satisfaisant. Giroud, 37 ans. Qui est-ce que vous voyez pour démarrer l'Euro qui arrive, Alex?
Alors, moi, j'aimerais beaucoup. Bon, j'aimerais beaucoup que ce soit Giroud, parce que en fait, j'aime bien Kolomwani et Thuram, mais comme on a dit, c'est insuffisant. C'est vraiment insuffisant. Kolomwani, il a fait une bonne rentrée contre l'Argentine, mais sinon, en équipe de France, c'est le néant. Thuram, je ne vais pas y revenir, mais il est catastrophique. Donc, je vois pas autre que Giroud, parce que bon, Mbappé en 9, c'est pour moi pas la bonne solution. Et on va pas rappeler Ben Yedder, on va pas rappeler Benzema, on va pas rappeler Gignac. Enfin, je veux dire, Giroud, pour moi, c'est la meilleure solution. En plus, il a des automatismes avec les autres joueurs de l'équipe, notamment avec Griezmann, que les autres n'ont pas.
37 voilà. ans. Hein.
37 ans, mais...
Une coupe, si on va loin.
37 ans, mais titulaire.
Les prolongations, les machins.
Mais titulaire toujours au Milan AC.
Non, mais c'est pas ça, je veux dire. Moi, je ne doute pas de ses qualités. Hein. On connaît ses qualités, on connaît ses manques aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que 37 ans, c'est 37 ans, hein, comme on dit. Hein. Est-ce qu'il pourra tenir si on commence à aller dans les prolongations, les tirs au but, une fois qu'on sort des poules et tout ça? Ce ne sera pas forcément évident qu'il tienne la cadence.
Sûr. Il ne pourra pas tenir 120 minutes,
c'est derrière,
sûr.
On a l'impression qu'il n'y a personne. C'est ça la question.
C'est vrai.
Et toi, mon cher Léo?
Non, moi je suis d'accord. Pour moi, Giroud, il est incontestable à l'attaque de l'équipe de France. C'est un joueur qui a plus ses preuves à faire. On parle du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Certes, il a 37 ans, mais au Milan, il est en train de réaliser l'une des meilleures, saisons de sa carrière. Pardon. Il est à 36 matchs, 14 buts, 7 passes décisives. C'est la première fois depuis 2015-2016 qu'il dépasse les 20 goals assists dans une saison, ce qui est exceptionnel à son âge en tout cas. Après, on disait qu'effectivement, il ne pourrait pas tenir 90-120 minutes. Mais c'est pas là n'est pas le problème. Je pense qu'un Kolomwani ou un Thuram peut très bien rentrer pour le suppléer si on arrive.
On n'est pas rassuré, les amis, arrêtez.
Non, mais si on arrive là, regarde, Kolomwani l'a prouvé en finale de Coupe du Monde dans une échéance très difficile.
Ouais, mais le problème, c'est qu'on est resté là-dessus. Et depuis, on ne voit plus rien, mais on continue justement de lui donner du crédit. Et c'est là où, moi, je veux dire... je vous observe, je vous écoute, les amis. Hein. Ne venez pas me dire après, ici, qu'effectivement, Giroud n'avait pas de remplaçant dans les sélectionnés et que, bien qu'il soit en forme, mais 37 ans aujourd'hui, fatigué, il n'y avait personne, justement, pour le suppléer dans un match où on aura besoin d'avoir un joueur qui a de la précision, par exemple. C'est ça aujourd'hui qu'on est en train d'encourir là. Moi, je milite pour qu'un Lacazette revienne en sélection. Mais franchement, justement, je trouve qu'il est beaucoup plus adroit que Kolomwani ou que Marcus Thuram. Je ne vois pas le même Marcus Thuram de l'Inter quand il arrive en sélection. Je ne le vois pas faire le point de fixation, de faire les décrochages. En sélection, j'ai l'impression qu'il est perdu. Le maillot, il est un peu trop lourd pour lui, certainement.
Parce qu'il doit jouer avec deux attaquants, Marcus Thuram. Il doit jouer avec deux attaquants.
Mais dans ce cas, il ne faut pas l'appeler. Ou alors, tu mets un schéma et qui le met dans les meilleures dispositions.
C'était avec
Cléa à ce moment-là.
Et l'Inter, c'était avec Lautaro Martinez. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que... Enfin, en fait, pour moi, Giroud doit commencer titulaire quoi qu'il arrive. Et ensuite, Kolomwani et Thuram, sans la pression de la titularisation, je pense qu'ils pourraient faire de bonnes rentrées. Mais comme ça, à l'instant T, pour moi, Giroud doit être titulaire, ça c'est une certitude.
Bien, justement, on va rejoindre notre ami du quotidien du sport.fr, Stéphane Desenclos. Salut Stéphane! Allô Stéphane? Bon, visiblement, Stéphane n'est pas encore en ligne. Hein. On va continuer justement et prendre l'avis de notre ami Eladj.
Ouais, bah du coup, je pense que tout a été dit, hein. Giroud doit démarrer titulaire. Après, moi, je m'en fais pas non plus pour. Moi, je verrais bien, mais je préférerais encore Colomoini, parce que comme je l'ai si bien dit à propos de Marcus Thuram, c'est pas la peine. Je préfère voir Colomoini rentrer en jeu et je pense que ça sera beaucoup plus productif et mettre un Giroud titulaire. Moi, je pense que ça, cette solution-là, je pense qu'elle est beaucoup plus évidente. Après, faire revenir des Lacazette, truc, franchement, c'est pas la peine pour moi. D'ailleurs, même, je sais même pas pourquoi il a pas pris sa retraite internationale jusqu'à là. Mais non, c'est un très bon joueur que j'aime beaucoup avec Lyon, etc. Mais en France, avec l'équipe de France, c'est pas la peine. Moi, je pense pas qu'il faut faire revenir Lacazette. Sinon, là, faudrait vraiment regarder.
Mais
en
si termes on, de performance, si on parle de Lacazette, on peut appeler Ben Yedder aussi. Que, si on parle de Lacazette, c'est bien parce que les deux précités, à savoir Colomoini et Thuram ne sont pas bons du tout. Autrement, oui, le nom de Lacazette ne reviendrait pas.
C'est sûr qu'ils sont pas bons. Moi, je pense qu'il faut leur laisser un peu de temps aussi.
Non, mais jusqu'à enfin, quand?
En tout cas, à Colomoini, parce qu'à Marcus Thuram, c'est pas la peine.
Oui, vraiment.
Non, mais je vais rejoindre mes collègues ici présents. Je pense qu'il va falloir commencer avec Olivier Giroud à la pointe de l'attaque. Pas parce que c'est le meilleur joueur de tous les temps, mais tout simplement parce que déjà, c'est le meilleur buteur de la sélection française, qu'on le veuille ou non. Et tout simplement parce que ses deux concurrents ne sont pas plus forts que lui actuellement. Donc autant commencer avec le meilleur des trois. Et actuellement, le meilleur des trois, selon moi, c'est Olivier Giroud.
Non, mais là-dessus, dans ça, c'est même pas un débat.
Il n'y a pas de débat.
Ça, c'est évident.
Si tu veux te donner toutes tes chances de gagner, il faut commencer avec lui. Après, là où ça peut être inquiétant, c'est que je pense que ce sera son dernier tournoi. Et pour l'avenir, si les deux, Marcus Thuram et Colomoini, ne se mettent pas à marquer des buts, à être décisifs en équipe de France, ça risque d'être compliqué. Et là, par contre, si on rappelle Lacazette, moi, personnellement, je ne serais pas choqué. Même si ça m'étonnerait. Vu les relations qu'il a l'air de tenir avec Didier Deschamps, mais personnellement, moi, ça me dérange.
Ah ouais, vous avez des infos là-dessus?
Bon, pas spécialement, mais au vu de ce qui se dit, au vu des, comment dire, des conférences de presse interposées, et comment chacun parle de l'autre, bon, ça se voit que c'est pas le grand amour entre les deux. Mais après, personnellement, moi, je préfère voir aujourd'hui Lacazette que le Marcus Thuram face à l'Allemagne, ça c'est sûr.
Mais justement, moi, Léo. C'est ça, vous parlez de Lacazette, et j'aimerais que un jour, on nous dise ce que Lacazette a de moins que Marcus Thuram ou Randal Kolo Muani à l'heure actuelle. On parle d'un joueur qui a marqué 27 buts la saison dernière, qui est aujourd'hui encore l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1 dans une équipe qui a une saison très très difficile.
Ouais, qui est en train de porter Lyon là.
C'est ça, un joueur qui a, quoi qu'on en dise, a quand même réussi à Arsenal, dans un Arsenal qui n'était pas non plus au top de sa forme. Moi j'aimerais qu'on m'explique déjà ce qui s'est passé, parce que la brouille entre Deschamps et Lacazette remonte à 2015. Et on se souvient que pour son dernier match contre justement l'Allemagne, Lacazette met un doublé.
C'était en 2017, ça.
C'était en 2017, excuse-moi. Et j'aimerais bien que Deschamps nous dise, parce qu'hier, il nous disait en conférence de presse ou avant-hier, oui, il fait partie de la liste des présélectionnés. Mais pourquoi ne pas le sélectionner? Est-ce qu'il y a des raisons personnelles? Certainement. Mais j'aimerais bien savoir si vraiment, sur un plan sportif, il y en a. Parce que je ne vois pas lesquels, sinon.
Mais moi aussi, hein, franchement, je m'interroge véritablement parce que je n'ai pas du tout l'impression de voir les deux précités, à savoir Thuram et Colomoini au-dessus de Lacazette. On va continuer justement, les amis, juste après. C'est bon, on a Stéphane Desenclos, mon cher Jason. On va prendre son avis sur la question, justement, s'agissant de l'âge avancé de Giroud, des difficultés de Thuram en équipe de France et avec la saison assez décevante de Colomoini. Quel numéro 9 l'équipe de France doit-elle aligner pour débuter le prochain Euro? Tous les amis ici présents autour de la table ont mentionné le nom de Giroud. Est-ce que c'est l'avis également de notre ami Stéphane? Stéphane, salut!
Salut les amis, salut à tous. Ouais, je vous ai un petit peu entendu parler. Bah, il y a deux problèmes. Le souci, c'est qu'effectivement, vous savez ce que je pense d'Olivier Giroud, mais à partir du moment où il n'y a pas meilleur que lui, où les autres sont pas bons, ça peut devenir une obligation. Et moi, pour ma part, le numéro 9 de l'équipe de France pour l'Euro, je le connais. Je mettrai Kylian Mbappé, tout simplement. Voilà.
Et qui sera à gauche, du coup?
Bah, dans l'idéal, peut-être une attaque Mbappé et Griezmann. Et puis sinon, tu peux très bien mettre à gauche. Bah, les gens, ils sont interchangeables. Hein, entre Coman, Dembélé, Moussa Diaby, tu as des solutions.
On a besoin de certitude quand même. Hein.
Tu ne vas pas dire pas que du tout de Dembélé certitude. Peut jamais jouer à gauche. Hein.
On n'a pas de certitude avec cette équipe, hein, mon cher Stéphane.
Non, le problème, il est là. Maintenant, on va voir ce qui va se passer pour... pour Colomoigny sur la fin de la saison et son évolution et tout, effectivement. Pour
moi, l'instant, j'ai bien peur qu'il ne fasse pas l'euro à cette allure. Hein.
Non, non, ça, moi, c'est que mon avis, mais l'euro, c'est fini. La liste, je peux te la donner maintenant, la liste des. À part deux, peut-être deux joueurs.
Ah oh là là, Stéphane, c'est bon, c'est
trop. Mais non, mais excusez-moi d'avoir un peu d'expérience, 30 ans d'expérience, d'avoir partagé avec des gens comme Jacquet, comme Deschamps même et tout. Il s'est lavé d'avant, d'ailleurs, il l'a dit, Didier Deschamps. S'il n'y a pas de blessé, ma liste, je l'ai déjà. S'il n'y a pas de blessé. Donc, les résultats, je vous dis, il y a Nkunku, est-ce qu'il sera rétabli à temps? Disasi peut-être, si jamais il faut, parce que c'est une liste de 26. Sinon, c'est les 23 qui étaient là, qui sont là en ce moment, Coman, tu arrives à 24. Et après, il reste deux mecs à prendre. Disasi, Nkunku, je ne sais plus qui, j'avais ciblé encore sur un autre derrière pour le. Et Griezmann, voilà, Griezmann. Griezmann, Disasi, Nkunku, deux parmi ces trois-là.
Tu penses quoi du retour éventuel de Lacazette en sélection?
Ah non, surtout pas. Je surtout pas. Ça serait un aveu de sais, au-delà du joueur, sans parler du joueur en lui-même. Au-delà du joueur de ses qualités, quelqu'un qui a pas été absent pendant sept ans, je crois, sa dernière sélection c'est en 2017. Tu le rappelles pas, tu as fait une croix dessus, quoi. Ça paraît évident, sinon tu l'aurais rappelé là il est il était, en tout cas, il a des chiffres et une saison, peut-être pas que Thuram, mais meilleur que Colomoigny. Mais ça veut dire quand même quelque chose de très fort.
Donc on se prive de Lacazette qui est en pleine qui est en pleine bourre. Tandis que les deux appelés, à savoir Colomoigny et Thuram, ne nous donnent pas satisfaction.
Tu te priverais par exemple de Marcus Thuram.
Mais la forme du moment, Lacazette, c'est la forme du moment. Moi, je suis pas pro Lyon, mais je vais dire la forme du moment. Tu te donnes le maximum de chances pour réussir au moins ton euro.
Excuse-moi, Malik. Stéphane, tu demandais pourquoi on devrait se priver de Marcus Thuram.
Ben non, mais dans les, je parle pas de mon avis personnel. Par rapport à ce que dit Malik, c'est-à-dire, je pense que Thuram avec l'Inter Milan, il fait une aussi bonne saison que Lacazette avec Lyon, faux, quoi. Faux. Donc, je vois pas pourquoi on décide.
C'est faux. C'est faux. Marcus Thuram, tu mets même Arnautovic à sa place, il fait le boulot. Il fait pas grand chose. Hein. On a pu le voir contre l'Atlético, c'est lui qui rate la balle de match et c'est pour ça qu'ils sont éliminés. Hein.
Là, t'es clairement. T'es quand même dur sur ses perfs à l'Inter.
Non, mais pourquoi? Il est entouré de Lautaro Martinez. En fait, Marcus Thuram, c'est un attaquant seul sur qui tu ne peux pas compter. Quand il est seul, il ne sert à rien. Il est obligé d'avoir quelqu'un avec lui.
Oui, là, je suis d'accord avec toi.
Voilà, à partir de ce moment-là, c'est quelqu'un qui ne sert à rien. Oui.
Une fois que tu dis ça, je suis d'accord avec toi. Mais là où je t'arrête, c'est quand tu me dis qu'il est moins bon que Colomoigny. Et là, je t'ai dit non, arrête.
Mais ils jouent pas dans le même contexte. C'est pas le même contexte.
Je finis ma phrase, tu vas voir. Ce sont des attaquants. On a besoin à un moment donné de regarder leurs chiffres. Je suis désolé. Colomoigny, c'est combien de buts cette saison? C'est combien de passes décisives?
En combien de temps de jeu, s'il te plaît, tu peux me le dire?
Moi, je préfère à la limite les stats de Thuram aujourd'hui que ceux de Colomoigny.
Mais en combien de temps de jeu?
Soyons objectifs,
les
amis.
Moi, je me base sur ce que j'ai vu les dernières saisons. Je me base pas sur une saison ou sur une moitié de saison. Moi, je me base pas sur ça. Quand je regarde un joueur, je me base sur ce qu'il a fait sur plusieurs saisons. Quand on a vu, parce que en off, tu m'avais dit que Marcus Thuram avait fait quelque chose avec Guingamp, je m'en rappelais même pas qu'il avait joué avec en avant Guingamp. Non, mais c'est vraiment pour te le dire. Parce que tu m'as dit Marcus Thuram, il a fait quelque chose avec en avant Guingamp. Je me rappelle plus de Yaya Touré avec en avant Guingamp que de Marcus Thuram. Et c'est non.
Mais... Ouais, mais parce que Non,
j'ai pas la mémoire sélective.
Mais regarde, tu te souviens de Yaya Touré, vas-y.
Mais je te pose une question. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Qu'est-ce qu'il a fait avec en avant Guingamp?
Non, mais rien
du tout.
Je suis pas en train de te dire que Thuram c'est le seul attaquant. Non, je suis simplement en train de te dire que je ne le vois pas en dessous de Colomoigny. Je suis désolé.
Bah, c'est ce que moi je suis en train de te dire en termes de
Colomoigny bénéficie d'un crédit que vous avez encore tous dans la tête.
En termes de
en lien avec la finale qu'il a faite quand il est rentré.
Je suis d'accord.
Moi je regarde pas les finales. Non, je regarde pas les finales. Moi je me base sur ce que j'ai vu à Nantes.
Je te parle de la finale, de la dernière finale de la Coupe du Monde.
Sur ça du tout. Moi je me base sur ce que j'ai vu à Nantes. Il a gagné une Coupe de France avec Nantes et il a fait.
C'était
il y a 3 ans, je me base sur les dernières saisons. Quand il était à Francfort, il a combien de buts? 15 buts et 15 passes décisives au moins. il est tout seul, il a besoin de personne. Cette performance-là,
mais Guirassy aussi, il est planté au but.
Attends. Oui, mais Guirassy, pourquoi tu me ramènes Guirassy dans le parce débat que tu me parles. Moi, je te parle de Marcus Thuram et de Gladbach. Et qu'est-ce qu'il a fait à Mönchengladbach Gladbach? Il a jamais fait une meilleure saison que Colomoigny a fait en une seule saison à Francfort. Ça, c'est la réalité des choses en termes de statistiques pures. Donc maintenant, dites-moi quelle saison Marcus Thuram a fait une meilleure saison en jouant autant de matchs que Colomoigny. Aucune.
Moi,
tout simplement.
Moi, je reste sur ma position. Je n'ai pas l'impression que
Colomoigny
soit au-dessus de Thuram. Je pense que c'est pour ça que d'ailleurs je milite pour que Lacazette arrive, pour peut-être faire bouger un peu les lignes.
Si je peux me permettre.
Oui, Stéphane.
Il y a surtout une énorme différence. Pour peut-être vous mettre d'accord tous les deux, j'en sais rien, c'est pas une question de se mettre d'accord, mais il y a une énorme différence, il y a deux choses à dire, il y a une énorme différence entre le club et la sélection, d'abord sur l'attitude, sur l'apport par rapport à la complémentarité. Il faut savoir que Didier Deschamps, c'est un fou de la complémentarité, donc il ne voit que par là. Et ensuite, par rapport à ce qu'a dit surtout LH par exemple, il faut savoir qu'un sélectionneur, ça, moi, je le tiens, par exemple, de la bouche d'Aimé Jacquet. Un sélectionneur, 95% de ses choix sont faits par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais, Didier Deschamps, sa sélection pour l'Euro, elle est à 95%.
Mais heureusement, heureusement, 2022, Stéphane. 2023, heureusement.
Donc, comment?
Heureusement.
Bah, donc, ce qui veut dire, je me rappelle que Randal Colomoigny, il doit sa place en sélection. Il a en tout cas séduit, envoûté Didier Deschamps avec sa saison 2022-2023 à Francfort, qui fait suite à une dernière partie de saison, surtout 3-4 derniers mois très très fort avec
là où je suis pas trop d'accord, c'est que Colomoigny, il arrive en sélection en remplacement de Nkunku, je crois, en blessé. Donc ça veut dire que c'est même pas un premier choix d'entrée pour Didier Deschamps. Donc aujourd'hui, faire de Colomoigny le joueur par excellence qui viendrait remplacer Giroud tel Haaland, il faut qu'on arrête à un moment donné, les amis. Moi, je pense tout simplement, c'est que Didier Deschamps a quand même une forme de loyauté qui est quand même une de ses qualités. Colomoigny, en rentrant dans cette finale, a fait bouger les lignes. On est tous restés là-dessus. On lui a accordé du crédit, et ce crédit-là, je pense qu'à arriver à un moment donné, pour moi, il arrive à expiration.
Bah, peut-être. Moi, je pense que Didier Deschamps, il est pragmatique. Je pense que Didier Deschamps, en l'occurrence, mais ça, c'est ce que je dis pour je le dirai à tous, c'est ce que je pense profondément. Il s'y connaît mieux en foot que toi, Malik, que moi, que Elat, que tous les gens qui sont autour de la table. Il a autant envie de gagner que nous, si ce n'est peut-être encore plus. Il nous le montre toujours. Donc, si jamais.
Mais il peut être en méforme aussi, hein, tu sais.
Il estime,
autant on a des joueurs en méforme, autant l'entraîneur peut être en méforme aussi, ça arrive.
Hein. Ouais, mais mais ça commencera à durer. S'il est en méforme, je pense pas. Maintenant, autant on peut critiquer, non pas dire que ça serait mieux de jouer comme ça, mais on peut critiquer sa façon de faire jouer l'équipe, par exemple, de mettre un Koundé latéral ou des choses comme ça. Maintenant, on peut pas forcément dire que c'est pas la meilleure façon qui va permettre d'avoir des résultats. En tout cas, on est mal placé pour le dire. Maintenant, on peut ne pas aimer, ou moins aimer, la façon de jouer de l'équipe de France. Moi, par exemple, aujourd'hui, si j'étais entraîneur de l'équipe de France, en plus, j'ai fait un sujet pour... J'ai fait pas mal de recherches, d'interviews de Deschamps et tout là-dessus, où Didier Deschamps dit clairement que c'est le choix de Kylian Mbappé qui préfère jouer. Alors, il faut arrêter, je pense, de dire que Mbappé, son poste, il veut jouer sur un côté. Lui, il préfère Mbappé jouer dans l'axe. Moi, aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait pas de remplaçant à Giroud, alors que ça soit, vous entendez parler tout à l'heure, pour moi, il ne peut pas commencer un match, Giroud, mais bon, s'il doit commencer un match, et il l'a dit lui-même dans les interviews, il dit, Deschamps, ça dépend juste de la tactique, si tu as besoin effectivement d'un pivot, de quelqu'un, d'un point d'appui et tout, ce qui en l'occurrence n'était pas du tout le cas, ce qui a manqué contre l'Allemagne là dans le dernier match, mais c'est pas du tout là que le bas a blessé. Mais si tu as besoin de ça, mais sinon je pense que moi aujourd'hui tu trouves pas de remplaçant à Olivier Giroud. T'as le meilleur joueur du monde qui cartonne au PSG quand il joue dans l'axe ou quand il joue à deux attaquants au Paris Saint-Germain, qui cartonnait il y a 3-4 ans quand il est passé à un moment donné dans l'axe au PSG. Pour moi, ça s'impose, quoi. Ça s'impose que le numéro 9 de l'équipe de France, ça doit être Kylian Mbappé, quoi.
D'accord, voilà. Au moins c'est ton avis.
Ouais, là, c'est mon avis. Ouais.
C'est un avis hein, qui tranche avec ceux qu'on a eu ici même sur le plateau autour de la table. En tout cas, les amis autour de la table ont une préférence pour Giroud dans l'axe de l'attaque française durant l'Euro qui arrive. Et j'ai une question un peu provocante comme ça, là, les amis. Là. Et si demain on se faisait battre par le Chili, par exemple, 1-0, on dirait quoi encore là?
Bon, on s'en fout. Il y a des joueurs qui n'ont pas envie de jouer. C'est pas qu'on n'a pas envie.
Bah, d'accord, je suis d'accord avec Stéphane.
Non, c'était juste une petite question comme ça.
Moi, je m'en fous.
On va juste marquer la pub et puis on va revenir, entre autres, pour parler de l'arbitrage en crise, de l'arbitrage en France. Orientation technique, sonorisation. Anthony Gauthier dévoile les nouvelles directives. Est-ce suffisant pour améliorer l'arbitrage en France? On revient juste dans quelques instants.
Vous cherchez le week-end parfait? Ne cherchez plus. Week-end africain, le rendez-vous incontournable du monde afro. De l'info, du divertissement et des débats. Rejoignez Malik Eudy et son équipe chaque vendredi à 19h en direct sur Mon Paris FM. Week-end africain, la garantie d'un week-end toujours bien rempli.
David roule tranquillement en centre-ville. Il reçoit un message et ne résiste pas à l'envie d'y répondre. Comme tous les jours, Julie rentre du collège. Elle traverse la rue et sera tuée sur le coup. Sa mère n'osera plus toucher à sa chambre. Son père se cachera pour pleurer. Sa classe se figera dans le silence. Et son professeur donnera le cours le plus dur de sa vie. Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route? Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables.
Ah, retour au plateau aujourd'hui dans Au bout du foot, 20h30, 22h ensemble. Nous parlons 100% foot. À présent, les amis, hein, on va aborder l'arbitrage en France. Vous dire que la France et les États-Unis en match international amical sont toujours sur le score de 0 but partout. Pardon. Il y a un pénalty justement pour l'équipe de France. On va laisser le temps justement. C'est qui tire là, David? Qui va donc s'exécuter pour tirer ce pénalty face au gardien américain. Je parie qu'il va mettre sur la droite du gardien. Et ça fait un but à zéro, c'est plutôt à gauche qu'il a mis, je suis complètement à l'ouest là. Un but à zéro pour l'équipe de France U23 qui mène les Américains. Donc un but à zéro, on joue, je ne sais plus, la demi-heure de jeu les amis, c'est bien ça, hein, environ aujourd'hui même en direct sur la chaîne L'Équipe. Le dossier au bout du foot, crise de l'arbitrage en France, orientation technique, sonorisation. Anthony Gauthier dévoile les nouvelles directives. Est-ce suffisant pour améliorer l'arbitrage en France? Anthony Gauthier, nouvellement en charge de l'arbitrage professionnel en France, suite au départ de Stéphane Lannoy, cherche à apaiser les tensions et à améliorer l'utilisation du VAR. Reconnaissant des erreurs passées, il propose des directives claires pour les arbitres, favorisant leur autonomie tout en garantissant une assistance vidéo non intrusive. Pour renforcer la transparence, des tests de sonorisation des arbitres seront effectués notamment lors de la finale de la Coupe de France. Ces mesures expérimentées en France pourraient potentiellement être uniformisées au niveau international, la France étant pionnière dans ce domaine. Cela soulève la question, ces initiatives seront-elles suffisantes pour réformer l'arbitrage en France, les amis? Je sais que dans pas mal d'émissions, dans Au bout du foot, on a beaucoup parlé quand même d'arbitrage, hein, alors que ce n'était pas forcément le but de cette émission. C'est dire qu'à un moment donné, on avait constaté que pas mal d'erreurs d'arbitrage avaient influencé les différents résultats. Alors, est-ce qu'avec les aménagements qui seront apportés très très bientôt, à savoir la sonorisation par exemple, comme au rugby, est-ce que ça vous rassure? Est-ce que pour vous, ce sera des initiatives suffisantes pour réformer l'arbitrage, mon cher Léo?
Moi, je pense que personnellement, que la sonorisation, c'est quelque chose de capital aujourd'hui dans le foot. Surtout quand on voit certains arbitres vouloir être les stars de certaines rencontres, à crier, à vouloir s'imposer aux caméras. Je pense que la sonorisation va permettre déjà pour le spectateur de mieux comprendre la rencontre, pour nous, chroniqueurs, médias, de mieux analyser les décisions de l'arbitre, parce que parfois on voit que même le VAR n'est pas infaillible, n'est pas infaillible.
On dit les deux. Hein.
Chacun fera son choix. Comme
on
ça.
Dit le là.
Et je pense que c'est important aussi ce qu'il a dit justement dans son interview à l'équipe, de favoriser le jeu et le spectacle. C'est aussi pour ça qu'on aime le foot, parce qu'il y a du jeu, parce qu'il y a du spectacle. Et il y a un autre point moi que je tiens à souligner, c'est l'utilisation du VAR dans deux cas très spécifiques. Donc le premier, le carton rouge en début de match. Et le dernier, un pénalty qui pourrait être accordé dans le temps additionnel d'une rencontre. Je pense que ça, c'est important et que ça va dans le sens du jeu et du spectacle. Parce que combien de fois on a vu des joueurs être exclus après 5, 6, 7 minutes de jeu, alors que ce n'était pas vraiment nécessaire, un simple rappel à l'ordre, un carton jaune aurait suffi. Je pense que là, c'est quelque chose d'important pour favoriser justement le spectacle, aussi le rythme d'une rencontre et ne pas tout gâcher au bout de 10 minutes.
Ibrahima, ton sentiment là-dessus ?
Bah, déjà, je tenais à saluer la prise de conscience parce qu'on sentait déjà, en regardant les matchs, il suffisait de regarder les matchs de Ligue 1 pour savoir qu'il y avait un problème au niveau de l'arbitrage en France. Malheureusement, ça se ressentait beaucoup trop sur les pelouses. Maintenant, moi, pour revenir sur ce que disait Léo, moi, le réel problème que j'ai, je pense que c'est l'assistance vidéo, c'est la VAR, tout simplement. Je ne sais toujours pas à quel moment on l'utilise. J'ai beau chercher, je ne comprends toujours pas.
Stéphane, tu as expliqué ça la dernière fois.
Oui, bah, quand on voit les matchs, c'est toujours pas clair. Il y a à certains moments, on l'utilise, d'autres non. À certains moments, j'ai même l'impression qu'on ne leur parle même pas dans le micro. Donc oui, moi, c'est ça le réel problème que j'ai. C'est la... Après, c'est vrai que par rapport aux nouvelles mesures qui seront prises... Le fait de sonoriser, ça peut être pas mal, parce que c'est vrai que souvent, à travers l'écran, on voit certains arbitres qui ont l'air de plutôt mal parler et se prendre parfois pour ce qu'ils ne sont pas, même, j'ai l'impression. Donc ça peut être pas mal. Mais
ils se font injurier par des joueurs aussi.
Oui, hein. Non, mais oui, les torts sont partagés, mais il y a certains arbitres quand même. Je vois au niveau du fin, il y a certaines attitudes où il y a de quoi se poser des questions aussi. Donc après, moi, je pense que, oui, personnellement, le réel problème que j'ai, moi, c'est avec la VAR. Je ne sais toujours pas quand est-ce qu'on l'utilise et... Tant que pour moi, ça ne sera pas résolu, je ne pourrais pas dire si l'arbitrage va mieux ou pas. Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie, c'est une partie intégrante d'un match. Aujourd'hui, s'il y a la VAR, ça peut tout changer dans un match.
Alex ?
Oui, je suis d'accord avec Ibrahima. En fait, pour moi...
Tu es d'accord avec la sonorisation, par exemple ?
Je suis d'accord
comme
avec
comme en Coupe de France, déjà.
Je suis d'accord avec la sonorisation, mais surtout comme au rugby. Je suis d'accord avec la sonorisation. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une ou deux semaines là au Portugal, il y avait eu un arbitre qui a pris la parole devant tous les téléspectateurs pour dire pour expliquer la décision qu'il avait prise. Et ça, forcément, ça a été mieux compris parce que je pense qu'il y a un énorme problème d'arbitrage dans le monde, pas que en France, et que la VAR pour moi est une énorme régression. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais pour moi, en fait, ce qu'il faut, c'est une meilleure explication. Des arbitres. Déjà, je pense que les arbitres, il faudrait qu'ils prennent la parole aussi à la fin des matchs, pas qu'on leur interdise, pour qu'ils expliquent certaines décisions. Et le comportement des joueurs, des éducateurs, il doit changer. Et donc, oui, la sonorisation, c'est un premier pas en avant. Donc, sur ça, Anthony Gauthier, il essaie de faire bouger les choses. Et donc, c'est une bonne mesure pour l'instant.
Eladj ?
Ouais, moi, j'ai pas grand chose à dire, hein. Franchement.
Ils tentent de
manier plusieurs fois, en tout cas de changer pas mal de choses. Pour moi, ça va pas de mieux en mieux. J'attends de voir, hein, seulement. J'ai pas grand chose à dire. Sans plus.
T'es toujours dans tes doutes en fait par rapport à l'arbitrage.
Exactement. Ouais.
Stéphane.
Ouais, ben moi la dernière intervention, je la trouve très judicieuse, sauf que je suis bien sûr pas du tout d'accord avec le fait que la VAR n'améliore pas les choses, parce que regarder un peu, passer un week-end à regarder des matchs de Ligue 2, par exemple, ou des matchs de foot féminin, et moi, au bout d'une demi-heure ou au bout de 45 minutes, je pète un plomb, quoi. Je me dis, putain, mais là, il y a hors-jeu de 3 mètres, mais là, il y a faute, et puis bon, bref. Mais au-delà de ça, ça serait déjà une catastrophe, mais vraiment décider de pas sortir un rouge en début de match ou de siffler un penalty en fin de match, des choses comme ça, ça serait vraiment une catastrophe. Je comprends même pas comment on peut envisager ça une seconde. Il y a un règlement de foot, c'est un règlement. Je veux dire, tu fais une faute, j'ai en tête par exemple la faute de Ramos en finale de la Ligue des Champions contre Mohamed Salah. Contre Liverpool, où il blesse, je ne me rappelle plus si ça méritait un rouge et tout, j'en sais rien, le débat il n'est pas là, où il blesse Salah, il le sort au bout d'une demi-heure de la compétition. Il y a eu, je crois que c'est un Chelsea-Rudiger sur De Bruyne, Chelsea-Manchester City, pareil. Je veux dire, ça doit être sanctionné, parce que sinon, il n'y a rien. Simplement, le truc, c'est un rouge, ça vaut un rouge. Et si ça vaut un rouge, c'est un rouge à la première minute, à la 90e, à la 50e, ça vaut un rouge. Quant à la communication, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais regardez bien quand même ce qui se passe en rugby. Vous n'entendez jamais les joueurs. Vous n'entendez jamais les joueurs. Vous n'entendez que l'arbitre. Est-ce que vous avez tous la certitude ici que quand il y aura la sonorisation des arbitres, tu ne vas pas entendre un espèce de bouhaha de « je te réponds et je te dis ça, je te dis ci, je te dis ça, je te dis ci » entre les joueurs et l'arbitre.
Après, ce sera peut-être dissuasif, hein, parce qu'à chaque fois qu'on regarde la Coupe de France, par exemple, on n'entend pas d'énormité. Hein.
Ouais, voilà, moi, c'est…
Ça calme un peu les ardeurs, je pense.
Ça va calmer peut-être les joueurs qui vont du coup plus dire « maintenant, je ne crois pas du tout ». Je trouve ça quand même bizarre. Je crois que c'est Ibrahima qui a dit qu'il regarde les attitudes des arbitres. Je regarde quand même, moi, trop peut-être exclusivement, donc il y a beaucoup, beaucoup de matchs de Ligue 1, de bout en bout et de façon concentrée. Je ne vois pas d'arbitre, autant et tout.
Ce qu'on reproche aux arbitres, par exemple, Turpin, si tu veux que je cite des noms, Monsieur Turpin,
les champions, Monsieur Turpin.
Justement, que Clément Turpin, on lui reproche de ne pas accepter le dialogue. C'est surtout ce que j'ai entendu, mais pas du tout de dire un truc quoi, minus, quoi, de parler mal à quelqu'un et tout. C'est simplement ce qu'il ne supporte pas.
Mais quand tu n'acceptes pas le dialogue, reste dans ta chambre, viens pas arbitrer un match.
Dernier point, il y a peut-être un truc à faire, moi je pense qu'il sera un truc à faire qui est énorme, c'est effectivement déjà d'éduquer les gens qui commentent le foot et qui parlent de foot. Donc déjà, bon, j'avais fait il y a 15 jours ou une semaine avec Ibrahima, finalement, apparemment, il n'a pas retenu. Mais même les gens qui commentent sur Canal, le nombre de fois qu'ils sont… C'est ça, qu'est-ce que ça fait du bien quand il y en a un qui connaît vraiment bien et tout. Il y a
Non, mais Stéphane, je ne suis pas d'accord avec toi sur un plan. Tu dis, pour ceux qui connaissent, même les arbitres eux-mêmes ne savent même pas comment interpréter la VAR.
Ah,
même les arbitres, les acteurs eux-mêmes ne savent même pas comment gérer cette VAR.
Parce que comme tu as dit, c'est de l'interprétation.
C'est de l'interprétation,
ah oui,
mais
il n'y aura jamais de bonne réponse. C'est complètement différent. Il y a quatre points précis, je les ai déjà dit, j'ai déjà expliqué, qui sont pour l'utilisation de la VAR. Après, que ça soit interprété, effectivement, il faut une homogénéité dans la façon d'interpréter la VAR. Pourquoi là, il y a pénalty et pourquoi là, il n'y a pas la pénalty.
Mais même les professionnels, les arbitres professionnels qu'ils sont n'arrivent même pas à s'entendre sur une même action. La preuve, l'autre, il s'est fait débarquer juste parce qu'il a critiqué, je crois que c'était Turpin qui l'avait critiqué, je crois, ou quelqu'un d'autre, je ne sais plus. Le patron de l'arbitrage, Lannoy, qui s'est fait débarquer, justement, juste parce qu'il avait estimé c'était le match.
Lannoy s'est fait débarquer parce qu'il s'entendait super, super mal avec tous les présidents de club, qu'il avait une gestion, qu'il ne répondait pas aux réunions et tout ça. Il devait avoir dans le nez aussi des gens, et puis des gens de la Fédé. Et c'est pour ça qu'il s'est fait débarquer. Ce n'est pas parce qu'il a dit que Turpin, peut-être qu'il aurait dit, je ne sais pas, que Turpin, il faut qu'il reste à sa place et tout ça. Genre ça, mais là, on est effectivement tout à fait d'accord. Là, je suis tout à fait d'accord. C'est peut-être ça dont vous voulez parler, Ibrahima, c'est qu'il faut une homogénéité. Il y a quatre points précis sur lesquels la VAR doit intervenir. Il faut une homogénéité complète. Après, il restera toujours à l'appréciation de l'arbitre. Mais je vous jure, allez voir des matchs. Pas plus tard que cet après-midi, j'ai visionné Benfica OM de 1990, rien que ça. J'ai prié le dieu VAR en me disant quand tu prends un but à 5 minutes de la fin de la main qui t'élimine, je pense que là tu peux prier le dieu VAR. Maintenant, C'est juste une homogénéité. Après, il y a des cas précis. Et puis voilà, maintenant, l'homogénéité, c'est aussi d'appeler Turpin. On dit que Turpin, personne n'ose l'appeler parce que c'est le seigneur, machin et tout. Bah, appeler Turpin comme tu appelles les autres, signaler ou dire ce que tu veux aux arbitres. Voilà. Et puis, communiquer, c'est bien que les gens, ils expliquent, quoi. Ils expliquent les règles. C'est important comme moi, c'est ce que je faisais en tout cas si j'étais à la tête d'une chaîne de télé où je mettrais des gens derrière leur poste qui regardent et qui peuvent prévenir les journalistes parce que des fois, rappelez-vous le but de Rennes en Coupe d'Europe, contre Villarreal, de l'égalisation, personne n'a compris pourquoi le but il n'était pas accordé à Rennes, je crois, dans les arrêts de jeu. Et il a fallu attendre je ne sais pas combien de temps pour qu'on nous explique la règle précise qui fait qu'effectivement ce but devait être refusé, quoi, voilà, et qu'il était refusé. Voilà. Donc je pense que c'est une connaissance des gens, une homogénéité de l'application des règles, c'est ça qui va faire un peu évoluer la VAR, quoi, et la faire un peu plus accepter, quoi.
Mais en tout cas, je pense que même les arbitres eux-mêmes sont toujours justement en attente de ces explications-là. Parce que tout simplement, on a souvent, sur les différentes pelouses, pas mal de soucis quant à l'interprétation de la VAR. On va à présent, les amis, à parler de Jeux Olympiques avec Karim Benzema. C'est parti. L'international français Karim Benzema a entrouvert la porte à une participation aux Jeux Olympiques de Paris l'été prochain avec la sélection olympique de football. Bonne ou mauvaise idée de voir Karim Benzema aux Jeux Olympiques, Eladj? Pourquoi tu souffles?
Voilà, franchement, je pense que mon soupir va un peu tout dire. Hein. Franchement, moi, je pense qu'il se rabaisse. Hein. Il se rabaisse beaucoup. Lui-même en termes de joueur personnel et de ce qu'il a fait pour le football, que ça soit français ou que ça soit pour le football en général, il se rabaisse à dire là je veux jouer les JO, en tout cas dire oui, pourquoi pas, même laisser une porte entrouverte. Moi je pense qu'il se rabaisse complètement. Il avait d'autres échéances où c'est là-bas où on l'attendait du moins, et on ne l'attendait pas aux JO. Là franchement pour moi c'est du grand n'importe quoi, c'est du grand cinéma tout ça, et franchement bon, ça serait juste... une honte en plus pour lui, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire.
Surtout qu'il a des chances de pas être appelé en plus.
Mais en plus.
Léo, bonne ou mauvaise nouvelle Benzema au JO?
Non, moi je suis un petit peu comme Eladj. Après, je pense que pour lui, en tout cas sur un plan sportif, ça pourrait être une bonne nouvelle du fait que Benzema en équipe de France, tout le monde se souvient plus de ses affres, de ses problèmes, de l'extra-sportif que ce qu'il a fait sur le terrain. Après il faut aussi voir où serait sa place en équipe de France. Est-ce que c'est un poste prioritaire à remplacer chez les U23? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui seraient plus importants? Mais sinon je pense que Benzema, c'est vrai que c'est difficile de dire dans une équipe de te passer de Benzema si tu as la possibilité de le sélectionner. Après oui, il faudra aussi voir son état physique, la volonté de Thierry Henry avant tout.
Bonne ou mauvaise nouvelle Léo?
Allez, moi je vais vers la bonne nouvelle.
Alex, bonne ou mauvaise nouvelle Benzema en sélection olympique?
Pour moi, je suis un peu partagé. Si j'étais Benzema, je viendrais pas. Et si j'étais Thierry Henry, je l'appellerais.
C'est lui-même qui a ouvert la porte. Hein.
Ouais, mais ça je comprends pas. Comme a dit Ella, je trouve qu'il s'abaisse un peu. Et en plus, c'est pas comme s'il était au top de sa forme en termes sportifs. Mais pour moi, allez, j'ai envie de dire bonne nouvelle en vrai, pas pour le foot français, mais je vois pas l'utilité, mais bonne nouvelle on va dire.
Ibrahima?
Non, je pense que c'est une mauvaise nouvelle. Je suis du même avis qu'Elad. Je vois pas pourquoi Benzema se rabaisse à ça. Enfin, surtout qu'il a pris sa retraite internationale, quoi. Donc,
Peut se rabaisser quand on parle quand même de sa nation?
On parle des Jeux Olympiques.
Bah, après, lui, il a eu une histoire assez compliquée aussi avec l'équipe de France. Il a pris sa retraite. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose et que jeunesse se fasse. Enfin, je sais pas.
Il a peut-être envie de gagner quelque chose.
Il a pas annoncé qu'il a pris sa retraite quand même.
Bon, si, il a pris sa retraite internationale, je parle.
Il l'a pas annoncé.
Sa retraite internationale.
Il joue en Arabie Saoudite.
Non, international.
International, c'est bien ce que je suis en train de te dire.
Il l'a pas annoncé.
Il l'a pas annoncé. En aucun cas, il l'a annoncé. Il est parti de la Coupe du Monde.
J'ai pas souvenir.
Non, il est parti de la Coupe du Monde. Il s'est juste plus exprimé. Il l'a pas annoncé.
Il a dit qu'il parlerait.
Il a gros doute là. Je pense qu'il l'a annoncé.
Il avait dit qu'il parlerait en temps et en heure.
Il a dit qu'il parlerait après.
C'est tout. Il a jamais dit je prends ma retraite internationale.
Il
a jamais
expliqué une vidéo où
il a dit qu'il expliquerait, c'est différent avec Deschamps, mais qu'il parlerait après.
Non, parce que on attend toujours. J'avais vu une vidéo où des supporters étaient venus interpeller Didier Deschamps pour lui demander le retour de Benzema, et il avait dit non, il a pris sa retraite internationale. C'est lui qui a décidé de pas revenir.
Non, il a dit, c'est lui qui a décidé de ne pas revenir, mais il a pas dit qu'il prenait sa retraite.
À la limite, ça, à la limite, on y reviendra.
Non, mais ça, c'est clair.
Non, mais je vais dire, non, mais à la limite, ça, c'est une parenthèse. Mais ce que je veux dire, c'est que là, en l'occurrence, c'est plutôt lui qui a fait la démarche d'aller vers entre guillemets Thierry Henry.
Ah non.
Est-ce que finalement, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle de voir Karim Benzema en sélection olympique?
Moi, je pense que c'est une mauvaise nouvelle. Faut que les deux passent à autre chose, que Benzema prenne sa retraite sportive de tranquillement de son côté et qu'on passe à autre chose, tout simplement. L'histoire avec l'équipe de France est trop compliquée. Je pense que ça s'est fini au Qatar lors de la dernière Coupe du Monde.
Juste avant, Stéphane, oui, Léo.
Mais je pense que Benzema, justement, s'il veut participer aux Jeux Olympiques, c'est parce qu'il est conscient aussi que c'est certainement sa dernière compétition internationale, peut-être sa dernière compétition avant la retraite. Et il sait qu'aussi les JO pour un sportif, d'ailleurs Thierry Henry l'a dit au tirage au sort de la phase de groupe, lui il en a pleuré de ne pas pouvoir les jouer. Et je pense que c'est quelque chose qui lui importe, Karim Benzema.
Ouais, moi aussi je pense à ça, il n'a pas envie d'être dans
carrière,
des regrets.
Excuse-moi Léo, mais c'est pas la même
non,
carrière.
Non, c'est pas la même
pas
carrière.
Même, du tout.
Mais il a un goût d'inachevé, je pense, en équipe de France.
Oui, c'est ça.
Mais même s'il gagne les JO, là, vous pensez qu'il va achever sa carrière
Seul lui pourra le dire.
Non, Stéphane. Non, nous aussi, on peut le dire en termes de ce qu'on a
non,
vu.
Non, mais je parle inachevé sur un plan personnel, pas sur un plan de ce que nous perçoit de lui.
À titre personnel, je dis. Stéphane.
Oui.
Bonne ou mauvaise nouvelle.
Ce que vous dites, en fait, je pense que c'est un faux débat. Déjà, parce que je ne pense pas une seule seconde que Thierry Henry il ait envie d'appeler Karim Benzema en équipe de France olympique. Ensuite, je pense que Benzema, que j'adore, hein, j'adore le joueur. Donc, vous le savez, c'est vraiment un, mais là, je vais être un peu méchant. Je vais dire, je pense qu'il a envie de faire ça. C'est toujours par rapport à son duel d'ego avec Didier Deschamps, genre t'as pas voulu de moi, ben moi je vais aller dans une autre équipe et machin. Donc je pense que ça a pas de sens, quoi. Je trouve ça a strictement aucun sens, hein. Même si effectivement ça peut être sportivement, même s'il est moins bon, ça peut être intéressant sportivement. Et moi j'aime bien le joueur, j'aime bien tout son talent de joueur, donc ça me ferait même presque plaisir de le voir dans l'équipe, quoi. Mais je pense que d'abord Thierry Henry veut pas le Philippe n'est pas là, mais au tirage au sort, là, il a été interrogé, Thierry Henry, sur quel joueur il voulait, machin et tout. Et que les gens, j'ai la bande-son, hein, je l'ai passé. Les journalistes lui disent, qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Karim Benzema, la porte est ouverte? Il ne répond pas, il ne dit pas un mot. C'est-à-dire qu'il y a un blanc de 10 secondes, 20 secondes, et après, il y a une autre question derrière. Il ne répond même pas à cette question. Juste avant, il dit, est-ce que vous en êtes tous des joueurs? La porte est ouverte, va falloir, on va aller frapper aux portes, on va voir ce qu'on veut et tout. Donc, je pense clairement que Thierry Henry, il n'a aucune envie d'appeler Karim Benzema, peut-être par rapport à Deschamps d'ailleurs, et peut-être parce que Deschamps…
Je pense aussi.
Enfin, je reviendrai aussi sur sa retraite. Moi, il va falloir que je fasse des recherches, mais je pense aussi qu'il a annoncé sa retraite internationale.
J'avais bien suivi de près. Et
une
il a
vidéo
jamais
avec un tweet avec marqué c'est fini ou un truc un peu au second degré, comme il a l'habitude un peu de
exactement,
le faire.
Exactement, un peu au second degré, mais il n'a jamais dit je prends ma retraite internationale. Il ne l'a jamais dit. Il
ne
l'a jamais
notifié. Non,
il mettait oui,
genre,
à bientôt, ça me fait rire. Il mettait des posts dans le genre ça me fait rire de tout ce que j'entends. Bientôt, on verra Vamonos. Ah, il est bon qu'à dire Vamonos.
Un saut d'humeur, peut-être. Hein,
c'est juste ça. Exactement, mais il n'a jamais dit je prends ma retraite internationale. Il faut savoir que Benzema, en fait, c'est une honte avec l'équipe de France. C'est vraiment une honte. Depuis son histoire avec Valbuena, il aurait jamais dû revenir, parce que quand on disait qu'on l'appelait pas à cause de ces trucs extra sportifs entre guillemets qui n'ont pas été réglés, même il a été condamné par la suite, et finalement ça devient limite l'un des meilleurs joueurs du monde, et là on commence à le rappeler en équipe de France et il accepte déjà de revenir. Pour moi, déjà dès là-bas il montrait un peu le joueur, et dès là-bas c'était une honte. Et là il poursuit encore avec les JO mais c'est vraiment une connerie. Il sera jamais appelé de une, il
ouais,
sera
non,
jamais
moi,
appelé
sera
et de
plus,
deux,
mais...
c'est franchement il se rabaisse, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça.
On a bien entendu, oui, rapidement.
Non, mais le plus grand souci avec Benzema, c'est sa communication. Tout est ambigu et il parle qu'à base de messages subliminaux, donc on comprend rien au final et c'est fatigant. Et ça le décrédibilise en plus.
Merci les amis. On va tout de suite et maintenant partir pour le prochain sujet. Les amis, on va parler argent. Cette semaine, les salaires des footballeurs de Ligue 1 ont été révélés dans le journal L'Équipe. Est-ce dérangeant ou gênant de connaître les émoluments des joueurs de foot? Mon cher Léo, est-ce que c'est joli de voir comme ça des salaires comme ça qui sont en plus, c'est des sommes qui sont tellement loin de la majorité des personnes qui viennent voir ces joueurs-là. Est-ce qu'il n'y a pas une forme, je ne sais pas, d'indécence comme ça? C'est-à-dire que même nous, à notre niveau, on a parfois du mal à donner nos salaires comme ça, tu vois. Et est-ce que c'est joli? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de gêne là-dedans?
Non, personnellement, moi, ça ne me choque pas. Je pense que l'argent, c'est un sujet qui est tabou. À tort ou à raison, chacun jugera. Mais on le sait que les joueurs de foot gagnent très bien leur vie, voire encore mieux que très bien. Non, c'est pas quelque chose qui me gêne de le savoir. Je pense pas non plus que ce soit quelque chose qui gêne les joueurs entre eux, parce que ils ont pas besoin d'un article dans L'Équipe pour savoir qui gagne le plus dans un vestiaire, ou en tout cas avoir une tranche de qui gagne le plus dans un vestiaire. Donc c'est pas ça non plus qui va jouer sur les égos. Moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange dans le sens où on le sait que ces gens-là, ils sont payés extrêmement bien. Après, est-ce qu'ils le méritent ou non, c'est un autre débat. Mais personnellement, moi, ça me dérange pas.
Elhadj, c'est pas gênant pour toi?
Non, pour moi, c'est pas gênant, sachant que là, on voit juste ce que les clubs leur payent. Maintenant, on ne connaît pas leur contrat avec les sponsors. Et généralement, on voit la plupart des joueurs sont mieux payés avec les sponsors qu'avec leur propre salaire qu'ils touchent avec leur club. Du coup, non, moi, ça ne me gêne pas. Au contraire, c'est bien de voir combien touchent certains joueurs qui sont vraiment très médiocres et comment ils touchent beaucoup plus que d'autres joueurs qui touchent pas beaucoup et qui ont des meilleures stats et qui apportent beaucoup plus à d'autres équipes. Non, pour moi, c'est très bien même qu'on monte ce genre de...
Oui, Léo, ta parenthèse.
Juste pour préciser, c'est bien évidemment une tranche. On ne parle pas, comme l'a dit Elhadj, des sponsors, mais on ne parle pas non plus des primes de match, des primes de but.
Non, mais on s'arrête même uniquement sur les salaires simplement divulgués comme ça. Mon cher Alex, les salaires des footeux, il n'y a pas une forme d'ingérence comme ça là-dedans?
Non, pour moi, non. Il faut en parler. Il faut vraiment arrêter d'être indigné, il faut en parler. Il n'y a qu'en France où l'argent, c'est un sujet tabou. Alors que dans les autres pays, pour la plupart, c'est un signe de réussite. Et puis, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens qui sont outrés, c'est quand on parle, quand on fait un film et qu'on dit oui, il a mis 200 millions sur le film, ou tel chanteur a touché 50 millions, il n'y a personne qui est choqué, mais quand c'est les footballeurs, tout le monde est choqué. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter cette hypocrisie. Et comme a dit Léo, dans un vestiaire, ils n'ont pas besoin de l'équipe pour savoir qui gagne le plus. Et comme a dit Elhadj aussi, c'est là qu'on peut voir aussi la gestion de certains clubs qui peut être catastrophique.
Ibrahima?
Non, personnellement, ça ne me gêne pas qu'on parle d'argent. Par contre, la seule question, je pense, qu'on devrait tous se poser, c'est si on peut se permettre de payer Mbappé autant. Imaginez juste un peu les personnes qui sont au-dessus de Mbappé, sachant qu'eux ne jouent pas au foot. Il y en a même certains, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Il y en a certains, on leur demande de recruter des joueurs, ils ne sont même pas capables de bien le faire. Si ces gens-là sont capables de donner tant d'argent à certains joueurs, j'aimerais bien savoir combien eux touchent, par contre. Moi, c'est plus ça qui m'intéresse, parce qu'à la limite, les footballeurs, ça fait déjà un moment qu'on sait qu'ils gagnent bien leur vie, mais j'aimerais bien savoir... Ceux qui sont au-dessus, moi, au-dessus des stades, j'aimerais bien savoir.
Là, dans les tribunes.
Dans les tribunes.
Voilà, dans les loges.
Oui,
là-bas.
Moi, c'est ces gens-là qui
mangent. Les amis qui mangent des petits fours là-haut. Là.
Exactement.
Ceux qui donnent ces salaires-là. Ces gens-là. Franchement, ils ont rien à envier. Ceux qui donnent ces salaires-là n'ont rien à envier.
Non, mais à la limite, j'ai envie de te dire, les joueurs, on sait comment ils gagnent. On va jouer.
On va prendre l'avis de Stéphane là-dessus.
Ouais, ben moi, je pense un peu comme tout le monde. Je pense qu'il n'y a aucun problème pour donner les salaires. Maintenant, le problème, il peut être de la part des médias en question. Ça fait toujours vendre du papier et tout, et du mal qu'on peut faire à des joueurs. Alors, avant les salaires, il y a effectivement les bon, même si ce n'est pas de le donner ou pas, les indemnités de transfert. Il y en a, ça leur fait très mal parce que ce n'est pas eux qui choisissent. Combien eux, je prends l'exemple, on parlait tout à l'heure de Kolo Muani, c'est pas Kolo Muani qui a dit au PSG il faut payer 90 millions d'euros à Francfort pour que je vienne, quoi. C'est Francfort qui a joué et c'est donc lui, il y est pour rien. Et aujourd'hui, il est classé parce qu'il n'est pas rentable par rapport à l'argent qu'il a coûté. Donc, effectivement, si tu dis le fait, par exemple, je pense à un Kurzawa, où là, je n'ai pas vu ces derniers temps, mais on dit toujours qu'il gagnait genre 300 ou 400 000 euros par mois pour rien faire et tout. C'est vrai que ça lui porte énormément préjudice. Ça portait vraiment préjudice à l'image du joueur. Alors bon, voilà, maintenant, est-ce qu'il faut le dire pour porter ? Parce qu'on est dans une société où on s'en fout un peu des autres, c'est comme ça, on a les infos, donc on les donne, ça va faire vendre, c'est bien et tout, et puis voilà, c'est le seul truc qui est un peu problématique, c'est comme on dit, comme tout le monde a dit, hein, dans le vestiaire et tout, tout le monde sait, mais je rassure Ibrahima, les gens, il n'y a pas de personne au-dessus de Mbappé, par exemple, au Paris Saint-Germain, hein, à part peut-être le chèque et du Qatar là qui est plus riche que lui, mais sinon Campos et tout, ils ont beaucoup moins que ça, hein, surtout même son entraîneur, il doit avoir peut-être 10 fois moins que lui comme salaire, Luis Enrique, donc il n'y a pas de rapport. Moi, ce que je dis surtout, en tout cas,
Luis Enrique est autour d'un million d'euros par mois,
salaires, ce que je dis toujours autour de moi, parce que ça c'est un débat auquel vraiment dans le cercle familial ou des amis, on en parle souvent, c'est que moi, le salaire d'Mbappé, il me coûte pas un centime. Par contre, il me rapporte de l'argent. Parce que sur un salaire, il y a les impôts, les taxes et tout, que verse le Paris Saint-Germain, verse mais des millions d'euros à la France par an en termes de charges sur les salaires. Donc moi, il ne me coûte pas un centime, quoi. Donc personnellement, ça ne me dérange pas du tout.
Merci les amis, on va boucler avec un 30 secondes chrono au pas de course. Les amis, on va parler rapidement du tirage au sort des Jeux Olympiques Paris 2024. On connaît les adversaires de l'équipe de France U23, c'est donc les États-Unis, hein. Il y a un match amical qui se déroule en ce moment même, c'est la mi-temps et l'équipe de France mène 1-0, et il y a également la Nouvelle-Zélande. De façon générale, est-ce que la compétition qui arrive même ici en France cet été, est-ce que vous êtes tout simplement intéressé, attiré par les JO qui arrivent là? 30 secondes pour toi, mon cher Léo.
En tant qu'observateur, c'est intéressant parce qu'on découvre de nouveaux joueurs, des jeunes surtout, puis ça leur permet aussi de se montrer. Après, et puis pour le grand public aussi d'ailleurs, ça permet de découvrir de nouveaux joueurs. Après, moi personnellement, j'ai pas une hype maximum sur la compétition. La communication mise en place n'est pas terrible, c'est pas un sport olympique traditionnel, il y a certains clubs qui vont refuser de libérer leurs joueurs, c'est-à-dire que ça fait beaucoup d'éléments quand même.
Elad, et toi ?
Pour l'équipe de France ou pour tout ?
De façon générale et surtout pour l'équipe de France.
Non, de façon générale, moi oui, il y en a qui m'hype, hein. En tout cas, les U23 du Mali, moi, j'ai envie de voir, non, j'ai envie de les voir, je te dis clairement, après un peu plus que l'équipe de France Espoir, j'attends de voir, hein. Franchement, j'attends de voir.
Et la compétition en elle-même ?
La compétition elle-même, moi, j'ai jamais été fan des JO, mais bon, là, ça sera vraiment. Je vais vraiment la suivre de A à Z et je vais voir ce que ça donne.
Et toi, mon cher Alex ?
Honnêtement, je vais être honnête avec vous, moi, je m'en fous total du foot aux Jeux Olympiques. Enfin, j'ai suivi les résultats, j'ai regardé quelques matchs, mais au final, le foot, c'est mineur dans les Jeux Olympiques. Dans la culture foot, les Jeux Olympiques, ça n'a pas trop sa place. Et là, oui, on va suivre l'équipe de France parce que c'est en France et que ce sera important que l'équipe de France gagne. Mais sinon, j'en ai pas grand-chose à faire, finalement.
Je vais modifier un peu la question pour toi, Ibrahima. Est-ce que si Mbappé, justement, rejoint les U23, ça change tout pour toi ?
Bah forcément. Là, on parle de Mbappé quand même, donc forcément, on va jeter un coup d'œil, même si je pense qu'il ne les rejoindra pas. Après, pour revenir sur la question de base, bah moi, les Jeux Olympiques, j'y apporte pas un grand intérêt. C'est pas quelque chose qui m'intéresse réellement. Surtout que, enfin, je sais pas si vous vous souvenez des derniers Jeux Olympiques de l'équipe de France, mais j'ai un très mauvais souvenir de cette équipe-là. Donc non, forcément, j'ai pas un grand intérêt à les suivre.
Stéphane ?
Ouais,
tu boucles la boucle.
Pareil. Moi, je suis même prêt à signer une pétition pour que le football ne soit plus inscrit aux Jeux Olympiques. Non, j'adore les Jeux Olympiques. Par contre, moi, contrairement à vous, je vais les suivre, hein. Mais l'athlétisme, l'équitation et d'autres compétitions. Mais le foot, je suis même pas sûr de regarder l'équipe de France, qui de toute façon, d'après moi, enregistrée, n'ira pas loin. Peut-être tout au plus en quart de finale. Donc je crois pas et puis ça m'intéresse pas.
Décidément. Merci les amis.
Merci Mbappé.
Merci mon cher Stéphane. On te retrouve avec le quotidien du sport sur internet, lequotidiendusport.fr. Léo, merci à toi. Insolite Foot. Elad, merci. Mon cher Alex.
Merci,
Big up à toi, Ibrahima. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour Weekend Africain dès 19h et lundi prochain pour un autre Au Bout du Foot. Jason Lidor réalisait cette émission. Salut, ciao.